Madame Chut.
Présente.
Monsieur Hamelin.
Présent.
Madame Lyon est excusée et représentée par Madame Piocer. Monsieur Farroy.
Présent.
Madame Regnault-Gallois est secrétaire de séance.
Présent.
Madame Rapaille.
Présent.
Monsieur de Maigret.
Présent.
Monsieur Nouga-Nouga.
Présent.
Monsieur Houllier est absent, excusé, représenté par Monsieur Bruno. Madame Piocergue.
Présent.
Monsieur Marquès.
Présent.
À qui nous souhaitons tous un joyeux anniversaire.
Merci.
Madame Jacqui.
Présent.
Madame Poirier.
Présent.
Monsieur Bruno.
Présent.
Madame Siget est excusée, représentée par Monsieur Lancel. Monsieur Contant est excusé, représenté par Madame Rapaille. Madame Martinet.
Présent.
Monsieur Gunner est excusé, a donné son pouvoir à Monsieur Farroy. Madame de Belleville est excusée et a donné son pouvoir à moi-même. Madame Galochet.
Présent.
Monsieur Billou.
Présent.
Monsieur Kerbache.
Présent.
Monsieur Chikaya est excusé, a donné son pouvoir à Madame Lagoutte. Madame Causserin.
Présent.
Madame Lagoutte.
Présent.
Et Monsieur Durox.
Présent.
Je vous remercie. Alors, le premier point à l'ordre du jour, c'est donc l'approbation de... L'approbation du procès-verbal de notre dernière séance en date du 13 décembre 2021. On vous a mis, juste pour information, celui du 22 octobre, Madame Lagoutte, puisque vous nous aviez demandé des modifications qui ont été faites, donc c'est pour ça qu'on l'a remis dans le dossier. Oui, une remarque, Madame Lagoutte.
Oui, Madame le maire, je vous remercie du coup d'avoir bien modifié le procès-verbal de la séance du conseil municipal du mois d'octobre 2021. Le titre est l'un des articles de la délibération 2021-142. Du fait des observations de Mme Galochet. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez me confirmer qu'elle a bien été envoyée à la préfecture avec le bon délai.
Oui.
D'accord. Par ailleurs, je n'ai pas de remarques particulières sur le dernier PV, mes colistiers d'ailleurs, donc nous votons.
Très bien. Donc, qui s'oppose à l'adoption du PV de notre dernière séance? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous avez trouvé ensuite la liste récapitulative des décisions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Lagoutte.
Madame la maire. Vous avez annoncé dans une décision, conformément aux pouvoirs de police qui vous sont dévolus, par décision, donc c'est la 2021-229, votre décision de doter la police municipale d'armes létales. Il s'agit là d'un sujet de société important qui transcende, comme vous le savez, des clivages politiques. Aussi, nous souhaitons ici vous faire part de notre colère et de notre étonnement qu'un sujet aussi sérieux ne soit pas inscrit préalablement dans un débat en séance de conseil municipal. Ce débat se serait inscrit dans le cadre d'une évolution des missions et prérogatives de la police municipale que vous désirez mettre en place, considérant que celle-ci, sur Nangy, se retrouve certainement exposée aux mêmes dangers, aux mêmes risques que la police nationale, enfin la gendarmerie, notamment ici. Évidemment, je ne peux évoquer les effectifs de la police municipale sans évoquer ceux de la police nationale et ceux de la gendarmerie, puisque le désengagement de l'État a conduit les maires pour partie à renforcer les effectifs de la police municipale et à remplir des missions qui ne devraient pas leur être dévolues. Il est vrai que les policiers municipaux sont parfois en première ligne dans les grandes agglomérations, mais à Nangy, soyons sérieux, l'ambiance est tout autre. Et dans ce contexte, c'est dans ce contexte que se pose la question de l'armement de la police municipale. On le voit, le sujet est quand même complexe, lourd de conséquences. Le travail étroit avec la gendarmerie me paraît plus pertinent. Mais évidemment, la nouvelle gendarmerie, comme nous le verrons tout à l'heure, ne trouvant plus sa place sur la ZAC de la Grande Plaine, la hausse des effectifs ne risque pas d'avoir lieu dans les 6 ans à venir. Le rôle aujourd'hui de la police municipale, qui a longtemps assuré des missions de proximité avec la population, et qui a traditionnellement un rôle de médiation et de maintien de la tranquillité publique, va désormais dévier vers une police de répression, et c'est notre grande inquiétude. Qui assumera désormais ses premières prérogatives essentielles ? À Nangy, les missions d'accompagnement et de médiation semblent prioritaires. Bien évidemment, les questions que nous nous posons intègrent un débat collectif et pas une simple décision, qui d'ailleurs aurait pu nous être communiquée dès décembre 2021, car celle-ci a été transmise à la préfecture en novembre. Ce débat, malheureusement, nous ne pouvons le faire puisque vous décidez toute seule de prendre cette décision. Enfin, nous avons eu connaissance que votre demande de subvention a été contestée par certains conseillers régionaux de l'opposition. D'ailleurs, dans le cadre de la mise en place de son bouclier de sécurité, la présidente du conseil régional, je le rappelle, avait fait adopter en commission permanente cet amendement qui ouvrait la voie au financement des armes létales pour les polices municipales franciliennes. Et je me permets de le rappeler que cet amendement avait été soumis un peu avant minuit aux membres de cette commission, quelques heures seulement avant le début de la séance du Conseil régional. Elle-même l'avait imposé sans débat. Une mesure inédite qui ne relève pourtant pas des compétences de la région, mais bien de l'État. Nous verrons ce qu'il en est de ce recours. Sujet tellement important que l'armement de la police municipale. Notre municipalité aurait dû donc débattre de cet armement avant de prendre une telle décision. Je vous remercie.
Alors, quelques éléments de réponse. Il y a beaucoup d'inexactitudes dans ce que vous dites, Madame Magoute. Alors, je vais peut-être le faire dans le désordre, mais je vais essayer de répondre à chacun de vos points. D'abord, vous voulez faire croire que parce que nous réorientons le projet de Grande Plaine, la gendarmerie, la nouvelle gendarmerie ne pourrait plus se faire à Nangy et donc les effectifs ne pourraient plus augmenter, si c'est ce que vous avez dit. Donc sachez que nous travaillons, je ne vous ai pas interrompu, je vous remercie de me laisser finir. Donc sachez que les autorités de la gendarmerie étaient encore à Nangy cet après-midi, justement pour discuter de l'implantation de la prochaine caserne de gendarmerie, que l'effectif prévu, il est fixé à 17 et qu'il est lié à la population à l'instant où on ouvre le dossier de gendarmerie et que les services de l'État ne prennent pas en compte la population à venir. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc il n'y a de toute façon pas d'effectifs nouveaux prévus, peu importe ce que sont les locaux de la gendarmerie. Monsieur Duc, je parle sous votre contrôle, vous me corrigez si je suis inexacte.
Exact.
Première chose. Deuxième chose. Pourquoi l'armement de la police municipale ? Parce que nous souhaitons augmenter l'amplitude horaire de la police municipale. On ne dit pas que les policiers seront armés toute la journée, ni qu'ils le seront pour chacune de leurs missions. Ça, ce sera discuté au sein du service, sous l'autorité du directeur du service. Mais on n'en est plus à l'époque du garde champêtre, Madame Lagoutte, qui était sur son scooter pour faire traverser les enfants en haut de la rue de la République. Donc il nous semble que, vu les événements que nous avons pu connaître dans le passé à Nangy, entre autres, vu... Alors cet été a été plutôt calme, et on s'en réjouit, mais vu certains épisodes un petit peu plus compliqués, et quels que soient les quartiers de la commune, je ne veux pas désigner un quartier plus qu'un autre, il nous semble opportun de garantir d'abord la sécurité de nos agents si on leur demande d'intervenir sur des situations à risque. Évidemment qu'on travaille avec la gendarmerie. Le PSIG intervient très régulièrement sur Nangy. On a régulièrement aussi du renfort de réservistes. Et la collaboration est très importante et se passe très bien en toute confiance entre les services de la gendarmerie, les services de la police municipale et les élus. Je vous rassure sur ce point. Enfin, effectivement, pour cet armement, nous avons bénéficié de la subvention du bouclier sécurité de la région Île-de-France. Et nous pensons, bien sûr, qu'il faut de la prévention. Et les policiers sont là aussi à la sortie de l'école et s'engagent sur des actions de prévention. Mais la prévention ne suffit pas. La répression aussi est nécessaire. et ne serait-ce que pour pouvoir intervenir en toute sécurité, il nous est apparu, en collaboration, en travail, en réflexion évidemment avec le directeur du service concerné, qu'il était important que la police municipale puisse être armée. Voilà. Oui, monsieur Durox.
Bonsoir. J'ai quelques remarques. Tout d'abord, je regrette aussi qu'il n'y ait pas eu de débat. C'est toujours intéressant de faire vivre la démocratie, même si sur ce point, je suis assez d'accord avec les mesures prises. J'avais moi-même indiqué dans mon programme. Pour m'être pas mal intéressé à la question, si on veut attirer des policiers municipaux, il faut leur permettre d'être armés. C'est aujourd'hui une condition presque sine qua non, sinon ils ne viennent pas. Il y a une tension extrême sur le recrutement pour les attirer dans une ville comme Nangis, une ville moyenne. Il faut leur promettre des bonnes conditions de travail, sinon c'est très compliqué. Et ceci dit, j'ai des questions sur le bouclier de la région. Je voulais savoir s'il y avait des contreparties à ce financement. J'ai cru entendre qu'il y avait des maires que j'ai pu rencontrer qui disaient que en échange de ce financement, il y avait une prise en charge de stagiaires par la mairie du Bois, je ne sais pas ce qu'il en est. Et d'autre part, pourquoi Nangis a été la première, à ma connaissance, puisque j'étais là aussi lors de la dernière séance du conseil régional, où on a pas mal parlé de Nangis. Et je me suis dit, comment se fait-ce, et ce n'est pas un mal en soi, que Nangis a été la première bonne ville, apparemment, à bénéficier de ça.
Alors, pour ce qui est des contreparties, comme pour toute subvention de la région de France, je suis même étonnée qu'en tant que conseiller régional, vous me posiez la question, mais c'est pas grave, je vais vous répondre. À partir du moment où on bénéficie de subventions de la région Île-de-France, il y a deux contreparties. La première, c'est de citer l'apport de la subvention de la région pour l'équipement. Et la seconde, c'est celle d'accueillir des stagiaires. Et c'est valable pour l'ensemble des subventions régionales.
Je vous pose une question parce qu'on ne m'a pas expliqué, il ne vous a pas échappé que je suis partie de la majorité. Donc,
pas de souci. Donc l'accueil de stagiaires, ce qui n'a rien à voir avec le service concerné. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a un stagiaire, par exemple, au service informatique. Il peut y en avoir d'autres dans d'autres services à d'autres moments de l'année. Pardon ? À la communication, c'est une apprentie à la communication. Voilà, donc il faut s'engager, puisque la région Île-de-France veut promouvoir les stages, l'apprentissage, etc. Donc il faut s'engager dans cette démarche-là. C'est ça, hein ? Voilà. Donc ce sont ça les contreparties. Ensuite, pourquoi Nangis a été la première à en bénéficier ? Ben, d'abord, vous me l'apprenez. Peut-être tout simplement parce que Nangis a été la première à le demander. Sur des caméras piétons également dont on souhaite équiper la police municipale, parce qu'on s'aperçoit que c'est très dissuasif également, les caméras piétons, le comportement des gens un petit peu énervés change radicalement s'ils s'aperçoivent que les policiers sont équipés de caméras. On a tout de suite fait la demande au département dès que ça a été voté là, au mois de décembre, le bouclier sécurité du département, tellement vite qu'on n'a pas encore exactement les modalités de... Voilà. Donc on l'avait dit, on est dans les starting blocks systématiquement pour alléger la facture pour les Nangiciens. Donc c'était tout simplement pour cette raison-là que Nangis a pu bénéficier du bouclier.
Bonsoir monsieur Durox, bonsoir à tous. En fait, on mène une veille importante sur l'ensemble des subventions disponibles, que ce soit régionales ou départementales. En plus, on a des agents maintenant. On a un agent qui est aussi très proactif sur ce sujet.
Et enfin, pour répondre sur l'argument, la question de la discussion et de l'échange, voilà, on l'a aujourd'hui, c'est très bien. Et ça nous permet justement d'être efficace et de ne pas avoir à attendre la commission, le conseil municipal pour ensuite faire les demandes de subventions, etc. Puisque ça fait partie des décisions du maire et qu'on estime qu'on ne transige pas avec la sécurité et en particulier celle de nos agents. Donc voilà, c'est très bien que vous nous posiez les questions et que nous ayons cette discussion ce soir.
Je pense que ça aurait été utile quand même. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette vision de la sécurité. Alors, ceci dit, vous avez parlé d'alléger la facture, mais j'ai bien compris qu'il y avait un certain nombre de stagiaires. Combien il y a de stagiaires et est-ce que c'est la mairie, j'imagine, qui prend en charge ces stages? Et du coup, combien s'élève la facture par mois pour la mairie et ces stages sont prévus pour combien de temps? Est-ce qu'on a, comment dirais-je, une prévision de coût global sur une année, sur plusieurs mois?
Alors, je regrette que vous ne nous ayez pas posé la question écrite, ça nous aurait permis de vous apporter des éléments précis de réponse ce soir, ce qui ne va pas être le cas. Mais sachez qu'il y a régulièrement des candidatures spontanées de jeunes qui sont parfois en classe de 3e, parfois en lycée professionnel ou en études supérieures. Non ? C'est pas ces stages-là ? Allez-y, madame Chute, je vous en prie.
En fait, vous devez obligatoirement prendre des stagiaires, mais ça dépend du montant de la subvention. Donc, quand vous avez une subvention versée par la région, selon le montant, on vous demande de prendre soit un stagiaire, soit deux stagiaires. Pour un stagiaire, il faut qu'il soit en stage au moins 2 mois. Au niveau de la collectivité et des coûts, vous n'êtes obligé de rémunérer un stagiaire qu'au bout de 2 mois de stage. Donc je dirais que le coût pour la commune n'est pas forcément chiffré.
Mais qu'il n'y en a pas si les stagiaires restent moins de 2 mois.
Voilà. Mais pour avoir la subvention, il faut pouvoir justifier un stagiaire pour 2 mois.
Ce serait intéressant d'avoir la liste des stagiaires éventuellement.
Non, RGPD, pas la liste, les services peut-être.
C'est favoriser l'accès au stage pour les jeunes. Et c'est une politique de la région.
Je leur dis dans le micro pour que ce soit enregistré. Il s'agit de favoriser l'accès au stage pour les jeunes. C'est un des axes forts de la région Île-de-France. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame Galouchi.
Alors, parmi les décisions que vous avez prises en vertu de la délégation du 16 juillet 2020, nous avons remarqué la décision numéro 237, prise le 25 novembre dernier, visée d'ailleurs à la même date par le contrôle de l'égalité, relative à la préemption du bien immobilier situé 33 place du Pompéo. Alors, pour la bonne compréhension des conseillers et du public, il est rappelé que les communes disposent notamment de deux dispositifs importants. Un droit de préemption urbain qui lui permet de se porter acquéreur de biens immobiliers au sein d'un périmètre urbain préalablement défini, au lieu et place de tout acheteur en cas de mise en vente du bien par son propriétaire. À Nangy, ce droit a été conforté dès 1987. Un droit de préemption sur le fonds de commerce, sur les fonds de commerce et artisanaux, dont le principe d'exercice est le même que le précédent. Celui-ci n'ayant été instauré par délibération du présent Conseil le 30 septembre 2021. Ceci dit, une commune se porte acquéreur et supplante le droit privé parce qu'elle a un motif légitime porté par l'intérêt général et elle n'a pas vocation à thésauriser et devenir un propriétaire foncier. Lors du dernier conseil du 13 décembre, nous vous avons interpellé, madame le maire, afin de savoir si des cessions de pas de porte ou de fonds de commerce avaient été portées à votre connaissance. Vous nous avez répondu par la négative. Aussi, nous regrettons que vous n'ayez pas rebondi sur la préemption que vous veniez d'exercer 3 semaines plus tôt, même si l'objet de la préemption n'est pas un fonds de commerce,
ni un fonds de commerce, ni un pas de porte.
On est bien d'accord. Une information orale au conseil aurait été quand même la bienvenue. Si je reprends la décision, dans les considérants, vous dites que la commune doit acquérir cette propriété pour contribuer à la requalification de l'espace urbain de son cœur de ville, constitué principalement par la place du Pompéo, et à la revitalisation des commerces, s'inscrivant aussi dans les actions du programme Petite Ville de Demain auquel adhère la ville. Nous nous interrogeons donc sur les motifs et les conséquences de cette décision. Deux questions principalement. En quoi l'achat de 3 tout petits logements inaccessibles en RP et d'un local commercial en activité objet d'un bail commercial de 9 ans prenant fin au mieux le 3 février 2028 peut intéresser la ville dans le cadre de la redynamisation de son centre? Comptez-vous racheter d'autres immeubles sur la place du Pompéo avec ou sans commerce au fur et à mesure de mises en vente probables?
Merci.
Alors effectivement, Madame Galochet, comme vous l'avez souligné, la question que vous nous aviez posée au dernier conseil municipal concernait les fonds de commerce et les pas de porte. Or là, il s'agit d'un immeuble et donc ni d'un fonds de commerce, ni d'un pas de porte. Cet emplacement, cet immeuble, est à un emplacement stratégique sur la place du Pont Perrault. Il nous a apparu important, effectivement, de préempter, de nous positionner pour pouvoir être garant du devenir de cet immeuble. Vous l'avez dit vous-même, il y a trois toutes petites surfaces. Je crois que les logements étaient en très mauvais état. Si on veut dynamiser le centre-ville, ça veut dire aussi faire en sorte que les logements soient en bon état et accueillants pour un public qui pourra consommer en centre-ville. C'est notre réflexion, c'est notre logique. Nous la mettons en œuvre et nous verrons quels en seront les fruits.
Je me permets d'insister sur la question que Mme Galochet vous a posée. Avez-vous l'intention de préempter l'ensemble des immeubles de la place du Pont Perrault à chaque fois qu'ils seront mis en vente pour justifier effectivement l'orientation que vous nous expliquez ce soir? Je rappelle encore une fois que c'est malheureusement ça n'a pas fait l'objet d'un débat au conseil municipal, ça aurait pu l'être.
Nous n'avons pas vocation à devenir un marchand de biens. Voilà, donc en fonction du marché, en fonction des opportunités, nous nous interrogeons et nous nous positionnons ou pas. Et la ville ne va pas devenir propriétaire de l'ensemble des immeubles qui composent la place du Pont Perrault, si c'est ça votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Donc vous avez également eu connaissance des conventions que nous avons signées de la numéro 274 à la 301. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Pas de questions? Je vous remercie. Nous allons donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec la première de nos délibérations et je donne la parole à M. Lancel.
Merci Madame le Maire. Donc cette première délibération porte sur le versement d'un acompte sur la contribution 2022 au CICPAN. La commune donc, de Nangy verse chaque année une contribution au CICPAN. La contribution s'élève à 201 826,12 € en 2021. Aussi, on considère que la contribution définitive ne sera adoptée que lors du vote du budget primitif. Donc on va proposer au conseil municipal ce soir de voter un montant maximum de l'acompte afin de subvenir à ses charges courantes. Ce montant maximum de l'acompte est fixé à 96 994 €. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur cette affaire. Avez-vous des questions? Je peux mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Merci, Monsieur Lancel. La deuxième délibération, c'est donc l'avis du conseil municipal sur un projet porté par la société Chimirec pour l'exploitation d'une installation de collecte, de tri, de transit et de regroupement de déchets d'activité économique sur la zone industrielle. Donc, ce n'est pas la première fois que la société Chimirec est au sujet de discussion au conseil municipal, hein, parce que vous aviez déjà pris des délibérations, M. Billoux, pour l'installation de cette entreprise. Donc il y a une enquête publique qui s'est terminée samedi dernier. Voilà, donc l'avis de la commune est favorable évidemment à l'installation de cette société, qui est une société familiale, que nous avons eu l'occasion de rencontrer, qui regroupe deux sites, qui déménage une partie de ses activités. Ce sont 30 emplois à la clé pour Nangy, donc une partie qui viennent de son précédent site, mais il y a également de nombreuses créations d'emplois. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, monsieur Gilles.
Oui, vous avez fait état effectivement du fait que ce n'est pas un sujet nouveau. L'entreprise Chimirec avait demandé d'ailleurs l'avis de la communauté de communes, puisque c'est de sa compétence, sur l'installation, je dirais, d'une plateforme intermédiaire. Ce n'est pas un centre de traitement. Je rappelle que l'entreprise Chimirec est spécialisée dans le traitement des déchets industriels, et qu'il est nécessaire donc de trouver une solution au traitement des déchets industriels, puisque les déchetteries des syndicats d'ordures ménagères ne les acceptent pas. Il était venu d'ailleurs en discussion au conseil municipal, de mémoire c'était M. Gavarou qui avait fait la remarque, que cette entreprise avait eu des soucis avec la justice. Important d'ailleurs, puisqu'elle ne respectait pas un certain nombre de normes qui lui étaient imposées. C'est une industrie qui fait l'objet d'un classement Céveso, notamment en Seine-Saint-Denis, là où elle traite ses déchets. Et donc il y avait effectivement une inquiétude sur le fait, alors je rappelle que cette affaire-là date maintenant depuis relativement longtemps, il semblerait que l'entreprise Chimirec se soit mise dans les clous depuis, et que considérant cela, considérant aussi le fait que le projet n'était pas stupide, d'essayer effectivement de rassembler à Nangy des déchets provenant de différentes industries, de les trier avant de les renvoyer convenablement dans des transports corrects en direction de la Seine-Saint-Denis, ne nous posait pas de problème. Voilà. Donc, pas de soucis là-dessus. Comme nous n'avions pas de soucis, je dois le dire, je le rappelle, avec l'installation des femmes logistiques. Ça nécessitera aussi un trafic de camions, peut-être moins important, mais en tous les cas, un nouveau trafic de camions. Mais je crois qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui d'activité industrielle sans transport routier. Malheureusement, le fret ferroviaire a largement décliné. Il n'y a aujourd'hui aucune piste de redressement du fret ferroviaire. En tous les cas, pour ce type d'activité, je ne pense pas que le fret ferroviaire serait particulièrement adapté. J'en profite pour dire que j'ai appris récemment que le dossier FM Logistique rebondissait et qu'il semblerait que... C'est assez étonnant, puisqu'il y avait quand même un feu majoritaire du conseil municipal pour dire qu'on n'en voulait pas à Nangy, que de nouvelles négociations tarifaires auraient eu lieu avec la mairie de Nangy.
Je vous rappelle que la délibération porte sur l'installation de Chimirec.
Oui, non, mais on est sur des installations d'activités potentiellement dangereuses.
Vous avez bien de nous poser une
d'accord.
question diverse.
Donc je dis simplement que je m'étonne que le dossier rebondisse et que d'un seul coup, il devienne acceptable parce que la logistique payera un petit peu plus cher.
Hors sujet. Hors sujet.
Ça vous arrange. On y reviendra.
Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet de Chimirec?
C'était pas une question. Quelle était la question sur Chimirec?
Ça n'est pas une question, mais il faudrait rectifier le nom de René Gassin pour ne pas confondre avec la ville de Gassin dans la délibération.
Oui, vous avez raison. Un C à la place du G. Monsieur
Ancel,
vous vouliez répondre?
Oui, je vais juste répondre peut-être sur la problématique des polluants. Effectivement, il y a eu deux affaires, pas une seule. La première, c'était un problème de bordereau qui était mal rempli. La deuxième, une problématique de PCB une pollution, puisque les taux entre le moment où ils ont enfoui certains matériaux venant de l'EDF, les normes ont changé. Ils sont apportés toutes les garanties et sur Nangis, ils apportent à nouveau toutes les garanties pour ne pas dire plus.
Qui s'oppose à cette délibération?
En fait, au niveau du bâtiment, c'est déjà un bâtiment qui existe. C'est un bloc sur lequel c'était juste un changement. Il y a, comme l'a dit Madame Chu, qui prend en charge la partie.
La contribution financière
pour le réseau d'électricité. Ils prennent en compte la contribution financière pour le déploiement, l'augmentation de puissance. C'est un bâtiment qui est déjà existant. Et l'augmentation de puissance pour un coût d'environ 17 000 euros est pris en charge par Enedis. Qui s'oppose à cette convention? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Madame Chut. La délibération suivante, je vais donner la parole à Monsieur Hamelin.
Cette délibération porte sur la demande d'adhésion de trois communes de Seine-et-Marne et d'Ousdès. L'Ousdès, le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, où par ces communes adhérentes ont un besoin commun de réaliser des prestations de maintenance et d'exploitation d'éclairage public extérieur et public. D'éclairage extérieur et public. Donc l'Ousdès m'a informé ses membres en courrier du 21 décembre 2021, et nous avons 3 mois pour répondre à ce courrier, de l'adhésion des communes suivantes, Soupe-sur-Loing, Soupe-Seine-et-Marne, les deux communes du Nord Seine-et-Marne, Choconin, Neufmoutier et Nantouillet, modifiant ainsi le périmètre du SDESM. Il vous est donc proposé de voter la notification du périmètre du SDESM par l'adhésion des communes précédemment citées.
Merci Monsieur Hamelin. Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante. Il s'agit donc de la proposition de désignation d'un conseiller municipal au sein du SMEP en remplacement de Madame Housset. Alors, je vais commencer par vous demander qui s'oppose au vote à main levée. Personne, c'est parfait. Donc nous allons pouvoir procéder à un vote à main levée. Donc nous vous proposons la désignation de M. Philippe Duc, représentant de la ville au sein du SMEP. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Qui s'oppose? Oui, Madame Lagousse.
Juste pour vous dire qu'on ne participera pas au vote puisqu'il s'agit d'un...
D'accord.
Du
oui, Madame Galochet.
Une plus petite observation, le SMEP, c'est juste un titre générique de syndicat mixte. Il faudrait mettre SMEP à un nombril central, s'il vous plaît.
Très bien.
Je ne prends pas parole pour vous.
Non, j'ai pas demandé. Donc, vous ne prenez pas part au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci à vous. La délibération. Oui, félicitations à M. Duc qui n'était pas là. Mais... donc, la délibération suivante, il s'agit donc de la représentante, la désignation, pardon, d'un représentant au sein de la commission aménagement de l'espace au sein de la CCBN. Donc, de la même manière que j'ai procédé. Qui s'oppose au vote à main levée?
Nous ferons la même démarche par rapport à cette candidature.
Très bien. Monsieur Duroc aussi? Oui, oui. Pas de souci. Donc, vous ne prenez pas part au vote. Monsieur Duroc non plus. Nous vous proposons donc la désignation de moi-même. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais donner la parole à M. Duc pour la délibération qui concerne la signature du contrat de sécurité entre l'État, la ville de Nangy et les autorités gendarmeriques.
Moi, je vais faire là-dessus. le cadre du programme Petite Ville de Demain, la ville de Nangis peut bénéficier du soutien de l'expérience de la gendarmerie nationale dans la mise en œuvre des différentes actions. La ville de Nangis et le groupement de gendarmerie départementale de Seine-et-Marne ont procédé à la rédaction d'un contrat de sécurité afin d'entériner cette nouvelle forme de partenariat. Ce contrat de sécurité a été validé par la préfecture de Seine-et-Marne. Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal d'en bien vouloir délibérer sur cette affaire. Donc vous avez tous eu la copie du contrat de sécurité.
Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, Madame Lagoutte.
Madame la maire. C'est avec grand intérêt que nous avons lu le contrat de sécurité que vous nous avez transmis et nous désirons revenir particulièrement sur une phrase que vous trouverez en dernière page sur les engagements de la ville de Nangis. Je vous cite. Du coup, je vais vous parler de l'agenda. Vous dites engager une réflexion sur la création d'une nouvelle caserne de gendarmerie à Nangis, entre parenthèses, secteur des Tanons. Alors je tiens à préciser que les mots sont très importants et pour l'information de toutes et tous, pour les élus et le public, cette phrase ne reflète absolument pas la réalité. Il faut le dire quand même, c'est notre équipe sous l'ancienne mandature qui a engagé cette réflexion et vous ne faites que la réengager. Pour rappel, par courrier du 10 mars 2020, la sous-préfète de Provins nous avait écrit pour nous informer que le projet de la nouvelle caserne de gendarmerie avait été agréé par le ministère de l'Intérieur et qu'elle venait couronner les efforts entrepris par notre ancienne municipalité ces dernières années pour la reconnaissance de sa pertinence au service des habitants. Vous devez la voir, je l'ai là. Il vous appartenait, puisque c'est vous qui avez été élu en juillet 2020, de poursuivre ce dossier en lien avec le groupement de gendarmes et avec le cabinet du préfet. Vous n'engagez donc rien. Vous poursuivez cet engagement. Et bien entendu, vous ne pouvez pas nier qu'un terrain a été choisi, qu'un aménageur nous aidait à mener ce projet et que nous avions l'engagement d'un organisme qui voulait bien construire cette gendarmerie. J'ai les courriers, mais vous devez les avoir aussi dans vos services. Ce qui est choquant aussi, c'est que vous parlez du secteur des tanneries. Certes, il y a des choses à inventer, à réfléchir sur le secteur des tanneries. Nous ne le nions pas. Mais je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça va coûter aux Nangiciens, alors qu'un terrain sur la ZAC de la Grande Plaine, cela ne leur coûte rien. En effet, il y a beaucoup de travail à faire sur ce secteur, puisqu'il y aura des bâtiments à démonter, à détruire et peut-être même à désamianter. Et il faudra faire de nouvelles études, souvent très chères, pour viabiliser le terrain. Imaginez le travail que cela va générer et les coûts que cela va engendrer. Je tenais à vous le rappeler qu'à partir du moment où le ministre de l'Intérieur approuve le projet, il faut au moins 5 ans avant que la gendarmerie voie le jour. Alors, votre action, Madame le maire, je m'interroge, vous reportez de meilleures conditions d'habitation, parce que je ne sais pas si les 5 ans vont demeurer suite au courrier que nous avions reçu de Madame la sous-préfète, mais ça, vous pourrez me le préciser. Et vous reportez, alors certes, pas des effectifs plus nombreux, puisqu'en effet, ils sont fixés à 17, et vous avez raison, mais une fois qu'on aura une nouvelle gendarmerie, si les effectifs devaient augmenter, ce sera quand même plus confortable dans cette nouvelle gendarmerie. Donc personnellement, moi je trouve que c'est un scandale. Vous voulez tout réinventer, mais je ne pense pas qu'en changeant de secteur avec un secteur si difficile à remettre en place, ça va permettre un meilleur bien-être aux habitants, puisqu'il y aura un coût et c'est certain. Donc vous aviez clé en main cette nouvelle gendarmerie avec un cahier des charges qui était très avancé, puisque je m'en souviens, je l'ai vu, et vous n'aviez qu'à travailler ce projet sur la ZAC de la Grande Plaine, enfin si je peux encore l'appeler comme ça. Donc je pense que les Nangiciens seront déçus par cette décision qui, je pense, va ralentir la construction. D'autant que le projet, je le rappelle, a déjà été approuvé par le ministère de l'Intérieur. Merci.
Alors, vous avez dit, Madame Lagoutte, le terrain pour la gendarmerie, ça ne coûtait rien aux Nangiciens. On est heureux de l'apprendre. L'équilibre global du quartier de la Grande Plaine ne fonctionnait pas. Il faut encore le rappeler ici ce soir, il n'y avait pas d'école prévue dans ce quartier. L'école, il n'y avait pas de terrain, il n'y avait pas de plan, et surtout, il n'y avait pas de financement. Donc, pour avoir réellement un quartier global, avec des habitations, une école, une gendarmerie, etc., évidemment que ça avait un coût pour les Nangiciens. Et c'est bien pour ça que nous avons engagé la réflexion complète du quartier. Et pourquoi nous cherchons à positionner la gendarmerie ailleurs ? C'est parce que, comme vous, nous sommes attachés à ce qu'une nouvelle gendarmerie puisse voir le jour, que les gendarmes puissent travailler dans de meilleures conditions, que les conditions de travail et de logement, puisque la caserne abrite les familles. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que la cour de la gendarmerie sert tant aux enfants à faire du vélo que aux véhicules à partir en urgence. Donc notre réflexion a été celle-là. On ne peut évidemment pas aller mettre une gendarmerie toute seule au milieu de la Grande Plaine, sans réseau et sans le reste. On ne va pas non plus faire un quartier qui ne correspond pas du tout à la vision d'avenir que nous avons pour la ville, sous prétexte qu'il faut y mettre une gendarmerie. Donc nous avons réfléchi à la mettre ailleurs. Et ce secteur des tanneries, je rappelle qu'il est avec deux accès, un accès côté centre-ville, un accès sortie de Nangy, la gare tout près où il y a beaucoup d'interventions de la gendarmerie également. Donc nous avons emmené les gendarmes voir le site. Ils le trouvent très intéressant. Vous parlez de la qualité de vie des Nangiciens. Moi, je vous parle aussi de la qualité de vie des gendarmes. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Être dans un quartier complètement excentré de la ville, ou être au contraire sur un secteur proche du centre-ville, proche des commerces, proche de la gare, proche des écoles, c'est aussi un facteur d'attractivité pour pouvoir avoir des gendarmes un petit peu plus expérimentés et qui restent plus longtemps sur le secteur. Donc c'est dans ce sens-là que nous souhaitons travailler. Vous avez parlé du bailleur avec lequel, effectivement, il y avait une délibération qui avait été prise par la ville. Le bailleur, c'était Mon Logis. Nous les avons rencontrés, en revanche, je crois, il y a 2 semaines sur ce sujet-là. Ils sont prêts à continuer à travailler avec nous, même s'ils nous ont quand même dit qu'ils ne voulaient pas non plus devenir des spécialistes de construction de gendarmerie.
T'es juste rappelé que c'est le même bailleur qui va s'occuper depuis un bon moment du dauphin. Quand. S'il va aussi vite, on va être embêté.
Vous nous avez dit l'autre fois que c'était lui qui s'était retiré du projet.
On n'a pas de document. C'est lui qui a arrêté le projet. On ne peut tous que constater que les travaux se sont arrêtés au dauphin.
On n'a pas de document.
On ne peut pas savoir. Il n'y avait pas besoin de documents. Tout le monde peut constater que les travaux sont arrêtés. Les travaux sont arrêtés, on le constate tous. Et je vous le dis, le propriétaire est toujours le même. Il s'agit toujours du bailleur Mon Logis, avec lequel vous aviez contractualisé, qui avait déposé son permis de conduire, de construire, pardon, en 2016, je crois. Et nous sommes, c'est ça, 2016, monsieur Billou? Permis qui avait été prorogé.
Le désamiantage
a été fait.
A été effectué.
C'est ça. En septembre 2020, le désamiantage a été effectué. Et puis, depuis, les travaux se sont arrêtés. Nous, évidemment, on suit le dossier. Hein, c'est bien pour ça qu'on les a rencontrés il y a 2 semaines. Ah bah oui, mais si on revient à la préemption que vous aviez faite, ça va bientôt faire 20 ans.
Il y a 20 ans,
oui.
Oui, les autres qui se sont intéressés à ce projet-là n'ont pas été beaucoup plus heureux.
Non, mais
depuis le retrait de l'HLM, il y a eu quand même 3 projets qui ont avorté. Donc.
Oui, mais il y avait un particulier qui souhaitait acheter.
Et vous connaissiez la qualité du projet.
Mais vous aviez préempté pour quoi faire ? Pourquoi vous aviez préempté il y a 20 ans, puisque rien n'était prévu ?
On a préempté, c'est l'OPDHLM 77, l'opérateur du département, qui avait racheté le bâtiment. Curieusement, changement de maire et abandon du projet. Écoutez-moi, c'est comme ça que l'OPDHLM...
Non, mais entre-temps, c'était plus l'OPDHLM 77. Vous pouvez ajouter un changement de majorité départementale aussi, accessoirement, en 2015, si vous vouliez être parfaitement exact.
Oui. Alors, je vais revenir aussi, si vous permettez.
2005, quand même, la date de préemption. 2005, je rappelle. Et le permis de construire de Mon Logis, c'est 2016.
Oui. Comment ?
Donc voilà, pour répondre à votre question, Madame Lagoutte, vous trouvez que c'est un scandale. Nous, on essaye de réfléchir autrement et au contraire, de ne pas être dans le dogme, mais d'être dans la recherche de solutions opérationnelles. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Et aménager les dents creuses.
Et alors, du coup, d'un point de vue opérationnel, est-ce qu'on peut avoir une idée du calendrier de la construction d'une éventuelle nouvelle gendarmerie ou ça reste très flou tout ça ?
Non, pour l'instant, il est trop tôt pour vous donner des éléments de calendrier. Mais le sujet était encore à l'ordre du jour de nos services, c'est optimiste.
Si je peux me permettre.
Je vous en prie.
Ce que nous avons relevé, ce que Mme Lagoutte a relevé, c'est un retard que vous ne pouvez pas aujourd'hui mesurer sur le projet initial. En 2020, nous avions l'autorisation du ministère de l'Intérieur. On sait qu'il faut 5 ans pour construire une gendarmerie. On aurait donc pu avoir une nouvelle caserne de gendarmerie en 2025. Il faudra attendre sans doute.
Et on l'assume, le retard, il n'est pas lié, tout le monde l'a bien compris ici, il n'est pas lié, et il n'y a aucune volonté de retarder le projet de gendarmerie. Simplement, le projet de gendarmerie était implanté dans un quartier.
Est-ce que je peux finir mon développement ?
Allez-y, je vous en prie.
Merci, je ne vous ai pas coupé. Donc, là où nous nous inquiétons, c'est effectivement sur le choix de ce quartier, parce que ça fait quand même quelques années qu'on travaille, effectivement, à la requalification de cette dent creuse, qui pose d'énormes problèmes. Un, il faut acheter des terrains, et les propriétaires sont prêts à les céder à l'euro symbolique. Il faut démonter les bâtiments. Ces bâtiments, pour la plupart, sont amiantés. Et on est sur le site pratiquement de la première zone industrielle de Nangy. Probablement, mais on n'en a aucune certitude, aucune analyse des sols n'a été faite, il faudra dépolluer les sols. Donc, clairement, nous sommes sur un dossier qui ne va pas être facile. Vous n'avez pas encore trop l'habitude de construire un. Vous ironisez, effectivement,
sur les permis de construire.
On suivra de très très près la façon dont vous y prenez, et vous allez apprendre sans doute un peu l'humidité. Je me rappelle d'un président du conseil départemental qui avait promis le collège à Jouy-le-Châtel avant la fin du mandat. Le mandat est terminé, le collège n'est pas encore construit. Il le sera. Nous sommes donc inquiets et nous le disons de ce choix. Voilà la raison. Alors qu'il y aurait eu la possibilité. La ville de Nangy va bientôt être propriétaire de 35 hectares de terres agricoles. Il y avait la possibilité. Ah oui. Vous imaginez bien que l'établissement public régional d'Île-de-France ne va pas conserver indéfiniment la propriété de ces terrains.
Bon, on a vu. Je ne sais pas d'où vous tenez vos informations. En tout cas, nous, on retient Jean-Philippe Dubois-Clément, le président de l'EPFIF et le président de GPA, qui nous assure continuer à accompagner la ville de Nangy dans ses projets.
Dans ses projets.
Mais bon, visiblement,
encore, vous êtes plus informé. Des projets, mais donc de toute façon,
il y en a, rétrocédera
à un moment donné ces terrains. Alors,
d'accord.
Il y avait besoin de 13 000 m2, pourquoi ne les avoir pas repris dans le prolongement d'Intermarché ? Mais bon, c'était très près des commerces aussi, hein, donc l'idée du centre-ville, bon, et franchement. Petite précision, puisque à une exactitude et demie, la question des effectifs de gendarmerie ne sont pas du tout au prorata du nombre d'habitants.
Alors, Monsieur Billot, vous l'avez déjà expliqué.
Monsieur Duc, autrement, excusez-moi, la brigade de la Fatay-sous-Jouarre aurait moitié moins de gendarmes, ou nous en aurions le double. Donc, par contre, la question des 17 logements, c'est que la gendarmerie nationale, lorsqu'elle construit une nouvelle caserne, construit pour l'effectif présent à ce moment-là. Il est de 17, donc la caserne accueillera 17 gendarmes. Ce qui pose le problème, effectivement, de comment construire ensuite, derrière, sur quel foncier, pour pouvoir accueillir de nouveaux gendarmes, parce que l'objectif est bien entendu, bien sûr, qu'ils soient mieux installés qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais que les effectifs puissent être développés
peut-être pas au niveau de la Ferté-sous-Jouarre, mais on peut considérer quand même que s'en rapprocher ne serait pas un scandale.
Si voilà. On mettait tout
enfin, dernier point, enfin, dernier point, parce que j'ai bien vu, et puis dans la réponse qu'a fait les PFIF, on est toujours sûr, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'école. Encore une fois, il y avait besoin de 10 salles de classe, et les 10 salles de classe, les solutions sont contenues.
400 000 euros la salle de classe.
Il y a 5 salles, il suffit de les transformer aujourd'hui, d'accord ?
Alors, où sont-elles, s'il vous plaît, monsieur Billou ?
Vous avez un dossier extrêmement complet, je vous demande de le remettre à tous les conseillers municipaux.
Voilà. Dites-nous, monsieur Billou, vous venez d'expliquer au conseil municipal qu'il y a 5 salles de classe qui sont vides dans les écoles de Nangis. Je vous demande des précisions, s'il vous plaît.
Je le ferai lorsqu'il y aura un débat sérieux sur ce sujet en séance du conseil municipal. Et d'ici là, je vous demande de bien vouloir porter à la connaissance de l'ensemble des conseillers municipaux l'étude démographique, la dernière, nous en avons fait deux, qui démontre qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle école dans ce quartier.
Eh bien, nous porterons à la connaissance du conseil municipal l'étude Miniguetti, c'était le nom de l'étude scolaire, quand vous nous aurez dit quelles sont les 5 salles de classe qui aujourd'hui
sont
vides.
Elles sont dedans. Ce sont des salles à billets.
Mais monsieur Billou, vous vous trompez.
C'est oublié. C'est bien que M. Billou est un super constructeur, il suffit de voir l'école des Roches. Oui. Alors, il est super constructeur, il va nous mettre des enfants.
Il va y avoir un débat sérieux.
Si vous commenciez à faire ça, ça serait.
On rappelle à tout le monde qu'il n'y a pas de garantie décennale sur cette école.
Oui, tout le monde.
Ah voilà. Oui, parce que vous n'avez pas respecté les consignes du préfet.
Bon, on peut remonter.
Vous avez continué le chantier coûte que coûte.
On a payé 3 fois déjà. Tellement elle était mal construite, c'est pas le cas.
Pour revenir, monsieur Billou,
au effectif
de la gendarmerie.
Oui, s'il vous plaît, monsieur Duc, revenons.
Alors, il y a un TEA, tableau des effectifs autorisés. Et c'est un militaire pour 1000 habitants. Actuellement, à la brigade de Nangy, sur la circonscription, sur les 11 communes, il y a entre 15 et 16 000 habitants. Ce qui veut dire.
Et sur la brigade de la Ferté-sous-Jouarre.
Vous comparez la ville de La Ferté-sous-Jouarre et la ville de Nangis, alors qu'il faut comparer les circonscriptions, c'est-à-dire plusieurs brigades qui dépendent d'une gendarmerie. Concernant Nangis, tant qu'on n'aura pas arrivé au chiffre de 17 000 habitants sur la circonscription de la gendarmerie de Nangis, l'effectif n'est pas inférieur et il est supérieur. Donc il est hors de question que la gendarmerie mette des effectifs supplémentaires. Il y a 3600 brigades en France, monsieur. Si on met 2 gendarmes en plus dans chaque unité, ça fait combien ? Ça fait 8000 gendarmes en plus. Vous croyez que l'État va par un coup magique, donner 8000 postes comme ça ? Vous savez très bien, vous avez été sénateur, vous savez très bien comment ça se passe. Alors quand vous faites des affirmations, vous faites que du faux.
Il y en a eu beaucoup de supprimés à une période d'un quinquennat. D'accord. Et il y a eu quand même beaucoup de postes qui ont été recréés. 8000 gendarmes de plus à l'échelle de la nation, franchement, monsieur Luc. C'est pas beaucoup.
Bien sûr, et puis voilà, et puis faire 32 heures comme certaines communes le disent, et puis voilà, puis on s'en sort plus. Vous voyez, vous croyez que ça marche comme ça, vous ?
Mélangez pas.
C'est bien de rappeler, parce que c'est l'occasion, que c'est bien la droite, enfin ce qu'on appelle la droite, où Mme Pécresse était ministre du budget, et c'est bien le budget qui décide, sur ordre du président de la République, qui a supprimé un grand nombre de fonctionnaires, dont 12 000 policiers et gendarmes. Donc cette situation-là, elle est aussi héritée de ce mandat calamité.
Il me semble que l'effectif de 1 gendarme pour 1000 a toujours été d'actualité. Voilà, que les suppressions avaient peut-être été sur d'autres services, mais pas au niveau des brigades territoriales. Donc, nous en revenons donc à cette délibération et au contrat de sécurité qui s'oppose à sa signature.
Alors, pour cela, on va s'abstenir.
Ouais,
très bien. Donc, qui s'abstient ?
Excusez-moi, pour que les choses soient claires, nous ne nous abstenons pas sur le contenu du contrat, qui est un prolongement des conventions qui existaient, convention police municipale, gendarmerie nationale, on n'a aucun souci avec ça. Simplement, on est effectivement inquiet pour l'avenir de la construction de la nouvelle gendarmerie, et pour cette raison-là, nous nous abstenons.
Très bien. Monsieur Durand.
Oui, je suis assez inquiet, mais je voterai pour, parce que je suis évidemment pour plus de sécurité.
Je vous remercie. Si c'est lui qui s'abstient, qui est contre. Le point suivant concerne donc l'acquisition d'un immeuble, avenue Molière. Donc nous ne sommes pas à la place du Pont Perrault. Donc dans le cadre du programme Petite Ville de demain, nous avons souhaité donner un avenir conforme aux usages qui nous semblent les plus opportuns sur ce site, puisque je rappelle qu'aujourd'hui il s'agit d'un bâtiment d'une surface de 250 mètres carrés, très dégradé, enfin aux façades dégradées, aux vitrines brisées. Et qu'en termes d'attractivité, d'image de la ville et de dynamisme du centre-ville, le bâtiment ne nous semblait pas des plus plaisants. Voilà. Donc nous soumettons cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur Durox. Vous n'allez pas vous faire des politesses pour un jour.
Oui, 250 mètres carrés, ça, c'est assez grand. C'est pour mettre combien de personnes à l'intérieur ?
Alors, nous travaillons aujourd'hui avec le centre social d'Angibude pour pouvoir y installer une maison France Service et en complément peut-être des boutiques éphémères. Tout dépendra de la surface qui leur sera nécessaire. Au départ, ils voulaient moins. Maintenant, ils trouvent que le site est tellement intéressant qu'ils en veulent plus. Alors, au départ, on s'était mis d'accord sur 180 mètres carrés pour l'Angibude et le reste en boutique éphémère. L'idée, c'est de proposer une surface commerciale à des commerçants qui veulent tester leur boutique, leur concept, donc avec un bail adapté. Pour tester la viabilité de leur projet avant de s'installer de manière plus pérenne sur un autre emplacement. Voilà. Donc nous avons rencontré le président et le directeur de l'Angibude. Ils ont visité les locaux et sont très intéressés par l'emplacement. Voilà. Oui, madame Lacoste.
Oui, nous voterons contre cette délibération donc, qui approuve en effet l'acquisition du bien, qui nous autorise à signer l'acte, voilà, et qui approuve le principe de transformation. Pourquoi ? Nous, on se demande quel est l'intérêt d'acheter ces locaux vides, qui sont depuis très très longtemps, on l'a souligné, en état de décrépitude totale, dans un état de délabrement avancé, voire indécent. Il n'y a pas que l'extérieur, je pense aussi qu'il y a des problèmes à l'intérieur. Alors, indirectement, M. Durox a posé une bonne question parce que la note explicative, elle était vide de toute substance. On ne sait même pas, il faut, en fait, en gros, il faut acquérir un bien, on fait un chèque en blanc, on se prononce sans une vue de ce que va devenir le bâtiment.
Je vais vous l'expliquer.
Oui, mais je vous le dis quand même. Vous êtes souvent intervenu à la communauté de communes pour dire que la note explicative, vide, elle est vraiment vide. Donc, on s'interroge quand même sur le bien fondé de cet achat. À part l'intérêt peut-être de faire plaisir au propriétaire, M. Medjani, la question peut se poser.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Mme Lagoutte ? Est-ce que vous pouvez être plus précise, s'il vous plaît ? Si, je vous en prie. Allez-y, soyez plus précise, s'il vous plaît, Mme Lagoutte.
Je finis mon intervention.
Qu'est-ce que vous entendez par faire plaisir au propriétaire ?
Vous êtes en train de dire qu'on fait un cadeau à M. Medjani ? C'est ça que vous êtes en train de dire, Mme Lagoutte ?
On en reparlera après.
Non, mais allez-y, je vous en prie.
Non, mais Mme Galochi confirmera peut-être quelque chose. C'est vraiment jeter pour nous l'argent public par les fenêtres. D'autant, comme je l'ai dit, vous ne donnez aucune information sur le projet d'intérêt pour les non-juifs. Depuis plus de 20 ans, les commerces qui se sont succédés, vous le savez tous, n'ont pas marché. Donc quel est l'intérêt même de mettre des boutiques éphémères
Je n'ai pas dit des boutiques éphémères. Je vous ai dit, 180 mètres carrés sur les 250 pour la Maison France Service et pour le Centre Social Nangilude.
Ça paraît
à minima, 180 mètres carrés. À minima, 180 mètres carrés.
Parce qu'ils ont déjà des locaux, Nangilude.
Mais ils ont des projets, madame la
ministre. Bon, bah c'est bien, mais comme on n'a rien, on n'a pas de projet, c'est compliqué. Donc nous, on a vraiment du mal à se raccrocher, je vous dis, au programme des petites villes de demain, document que vous nous avez fourni en commission de finances, voilà. Pour ces raisons de votre rencontre. Mais je pense que madame Galochet va confirmer quelque chose. Merci.
Oui, pardon, allez-y, madame Galochet.
Alors, deux grosses observations. Déjà sur la rédaction de la délibération, puisque c'est un secteur que je connais évidemment très bien. Alors, vous dites que vous approuvez l'acquisition du bien immobilier cadastré section 1H427. Alors, le H427, c'est un groupe d'immeubles, il y a plusieurs corps de bâtiments, il fait plus de 3000 m². Donc là, de toute façon, même si vous poursuivez votre projet d'acquisition, il ne s'agit pas d'un bien immobilier ni d'un bâtiment comme c'est publié à quelque part, mais de biens et droits immobiliers parce que vous êtes dans un immeuble qui est soumis à un volume de copropriété. Il y a au moins 3 copropriétaires dans ce corps de bâtiment. Vous avez un bailleur social et vous avez 2 bailleurs privés. Ensuite, alors ça c'était déjà pour la délibération par elle-même, parce qu'un bâtiment de 30 avenues modernes, non, c'est une copropriété de volume, et à chaque fois que vous faites des travaux dans la structure, il faut évidemment l'accord de tout le monde. Et évidemment, faire attention aux millièmes de copropriété qui vont jouer sur l'incidence des travaux qui sont supportés par l'ensemble de ceux-ci. Alors ensuite de ça, tout à l'heure Madame Lagoutte a parlé de qui a rebondi en disant qu'il y avait un cadeau à M. Medjani.
J'ai dit, est-ce que Madame Lagoutte est en train de nous dire que nous faisons un cadeau
C'est vous qui avez posé la question.
Non, c'est Madame Lagoutte qui a
insinué. Ne changez pas la situation.
Donc, s'il vous plaît. Non,
madame. Ce que je dis,
c'est bien vous qui avez parlé du cadeau.
Oui, ce que je dis, c'est. Effectivement, est-ce que Mme Lagoutte sous-entend que nous faisons un cadeau ?
Écoutez, je ne sais pas, mais je vais vous donner des explications bien précises. Si on repart sur la place du Pompéro, le 33, voilà, c'est quand même extrêmement important. Les domaines, Mme Simonio met en vente son immeuble à 210 000 euros, dont 10 000 de commission, agence. Donc ça lui faisait un prix net vendeur de 200 000. Les domaines vous disent 160 000, c'est suffisant. Effectivement, vous préemptez à 160 000 plus 10 000 de commission d'agence. Donc, si je fais bien les comptes, 210 000 moins 170 000, il y a une perte de 40 000 euros. D'accord ? Pour le 30 avenue Molière, les domaines vous disent 270 000 euros, l'achat se fait à 312 000. Donc là, par contre, vous donnez 40 000, 42 000 euros en plus à M. Medjani. Voilà, c'est tout ce que l'on voulait vous signaler et signaler au public.
Alors, je vais compléter votre propos. Le prix de marché pour l'immeuble, enfin le bien de M. Medjani était de mémoire à 350 000 euros. L'estimation des domaines, je crois, date du mois de septembre, il y a bientôt 6 mois. Or, vous le savez, vous êtes nombreux à le savoir ici, le marché sur Nangy est très évolutif à la hausse. Donc, deuxième élément. Enfin, les deux biens ne sont pas du tout comparables. Vous en avez un où toute la surface est en rez-de-chaussée, et surtout qui est fragmentable. C'est-à-dire que le propriétaire du bien avenue Molière avait des propositions pour vendre, on va dire, à la découpe, pour que tout le monde comprenne. Et donc, en vendant à la découpe, il avait des propositions sur une base de prix bien supérieure à celle de l'estimation globale du bien. Or, vous n'êtes pas sans le savoir, quand on a une estimation des domaines, il y a une marge acceptable. Donc nous sommes dans cette marge, hein, pour la parfaite compréhension du public. Et nous ne voulions pas, nous pensions que ce ne serait pas une bonne chose, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, des commerces à cet endroit-là, il y en a eu beaucoup. Il y a eu la pizzeria, il y a eu de l'auto-école, il y a eu du coiffeur. Tous ont été des échecs. Et donc, nous pensions que la vente à la découpe n'était pas une bonne idée pour cet emplacement-là et nous aurait encore exposé à des biens dégradés, à des commerces de basse qualité. Et donc nous avons essayé de trouver un autre avenir pour ce local qui est quand même très bien situé, avec du parking à proximité, à côté de l'école, un endroit de passage très fréquenté. Donc nous avons exploré plusieurs pistes, hein, mais il nous semblait important d'offrir une perspective de réhabilitation à ce site en essayant de trouver une issue la plus favorable possible. Ce qui nous a donc conduit à cette proposition et à ce projet avec le centre social d'Angilly.
Madame Labert, pour information, j'ai repris l'avis des domaines du droit du bien que vous avez préempté. Donc la date de consultation était du 21 octobre et celle-ci du 10 septembre. Hein, donc c'était à peu près la même époque. Donc je maintiens notre position.
Oui, il semble compliqué que la marge de manœuvre entre l'avis des domaines et les acquisitions sont entre 10 et 15%. Ça pouvait être aussi bien, le prix à la SCI Monod pouvait aussi bien être le lieu à la hausse. Dans une maison de ville comme ça, en plein cœur de Nangis.
Est-ce que vous l'aviez visitée, Madame Galocher, cette maison? Est-ce que vous aviez eu l'occasion de la visiter, la maison de place du Panthéon?
Visiter, non, mais j'avais traité son permis de construire en 2009 quand j'étais à l'urbanisme.
Permis de construire?
Un permis de réhabilitation.
Ah oui.
Je peux vous assurer que l'intérieur était extrêmement dégradé. C'est-à-dire que les planchers haies, avec des planchers...
Excusez-moi, vous avez visité la place de l'avenue Molière?
Oui, madame.
Franchement.
Oui, madame.
Oui, oui.
Oui, oui. Je peux même vous dire que nous l'avons visité avec les services de la Poste. Parce que ça faisait partie de nos projets.
Parce qu'il est vraiment très, très, très...
Oui, mais nous sommes rentrés.
Le calme dans son ensemble est très, très, très grand.
Mais on est sur... Vous ne pouvez pas comparer les deux bâtiments. On est sur une maison qui a peut-être 150 ans d'un côté, où toute la structure est particulièrement dégradée, enfin les poutres et tout ce qu'on veut. Et puis de l'autre côté, vous êtes sur un bâtiment qui date des années 80. Enfin, c'est totalement incomparable.
Mais
la structure du bâtiment avenue Molière, elle est saine. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas d'infiltration?
Écoutez,
si on a besoin
d'un expert, on fera appel à vous.
Non, mais madame Luther, vous avez vraiment visité l'intérieur de l'eau.
Oui,
il n'y a aucune infiltration. L'état actuel, c'est vu simplement comme ça parce que les commerces sont fermés. Mais pas du tout, hein. Pas du tout.
Écoutez, nous y sommes allés à plusieurs reprises, on n'a pas constaté d'infiltration.
Écoutez, ça fait des années que le propriétaire essaie de vendre ses locaux et qu'il n'y arrive pas. Là, on n'est pas dans le cadre d'une préemption. Il n'y avait pas des acheteurs. Alors,
mais on ne voulait pas laisser une verrue dans la ville, monsieur.
Non, d'accord. Mais acheter au prix conseillé par les domaines. Vraiment, ces 42 000 euros, on ne les comprend pas.
Je vous ai expliqué.
Non,
vous pouvez toujours me dire non. Le propriétaire avait des propositions à la découpe. Bah, peut-être, je vous le dis, vous avez le droit de ne pas me croire, et j'ai le droit de le dire. Voilà. Et il nous a apparu que ça n'était pas la meilleure des garanties pour le devenir de cet espace, vu les expériences précédentes. Donc nous avons préféré nous orienter sur un autre projet.
Vous pouviez préempter ça?
Non, parce que si on avait préempté, monsieur Biou, vous ne comprenez pas, si c'était à la découpe, on était largement au-dessus de ce prix-là. Puisque là, l'estimation, je vous ai dit, pour un prix global, si on coupe, on vend beaucoup plus cher. Donc si on avait attendu que chacun des commerces soit à vendre pour préempter, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Puisqu'à la découpe, c'est beaucoup plus intéressant pour le propriétaire. Donc je soumets.
Le propriétaire l'a accepté.
Je n'entends pas, monsieur Carvache. Pardon, il faudrait que vous parliez dans le micro pour que ça puisse être enregistré, s'il vous plaît. Merci.
L'immeuble du centre-ville, le propriétaire a accepté.
Nous ne sommes pas dans la même procédure, monsieur Carvache, parce que là, c'est une vente de gré à gré avec une proposition qui a été acceptée par le propriétaire. Effectivement, sur la place du Pompéro, il s'agit d'une. L'exercice du droit de préemption. le propriétaire a contesté. Et donc, il y a une nouvelle visite des domaines, et c'est le juge des expropriations qui va donc fixer le prix de vente. Qui va statuer. La visite du juge des expropriations, justement pour cet immeuble de la place du Pont-Béraud, est prévue le 16 mars. Voilà. Donc je soumets cette délibération à votre vote qui s'oppose. Madame Lagoutte, vos voisins lèvent la main. Qui s'abstient ? Une abstention. Je vous remercie.
Bonne norme.
Pardon ?
On a la liberté de vote.
Oui, oui, je sais. Je me faisais pour l'informer. Vous avez...
Oui, c'est pas,
je ne voulais pas qu'elle ait des regrets après.
Ça,
ouais. Alors, dernière délibération. Je vais laisser la parole à M. Lancel.
Merci, Madame le maire. Donc, dernière délibération, des créations de postes. Pourquoi ? Parce qu'on va faire face à divers mouvements de personnel. Aussi, on... créer des postes sur le grade d'adjoint administratif pour qu'on puisse remplacer des agents qui, dans la collectivité, soit pour des décisions personnelles ou encore pour des départs en retraite. Effectivement, on crée voire 4 postes d'adjoint administratif à temps complet pour faciliter donc le recrutement. Vous m'entendez pas ? Bien, madame. On détient donc, on crée 4 postes pour des candidats qui détiennent le premier grade. Avez-vous des questions ? Madame Lagoutte.
Merci. Madame le maire, nous nous interrogeons aussi sur ces créations de postes. Alors, vous nous indiquez dans la note explicative que des agents avec un grade supérieur quittent notre collectivité avec certainement des compétences acquises depuis plusieurs années. Vous créez 4 postes d'adjoint administratif de premier grade. Donc, soi-disant, c'est ce qui est indiqué dans la notice, pour faciliter le recrutement des candidats. Nous pouvons tout de même nous interroger sur ces embauches au grade d'adjoint administratif, si elles ne sont pas plutôt liées à des recherches d'économie plutôt qu'à des recherches de compétences. En effet, nous voudrions savoir quels postes sont concernés et quels étaient le grade des agents, ainsi que les missions qui leur incombaient. Parce que peut-être que certains de ces postes nécessitent le grade qu'il y avait. Mais comme on n'a rien dans la notice, c'est un petit peu compliqué. Alors évidemment, nous, on ne peut pas approuver l'affaiblissement systématique des compétences des agents à venir, puisque peut-être certains postes pourraient nécessiter d'être peut-être cadre B. Donc on s'étonne de nouveau de cette notice qui est vide quand même et qui n'est pas détaillée. Donc, n'ayant pas assez d'éléments pour pouvoir délibérer positivement sur ce projet, donc bien entendu, on ne votera pas contre la délibération, puisqu'on est pour la création de l'emploi public, et vous le savez bien, mais nous nous abstiendrons. Mais nous maintenons notre demande d'éléments précédemment, ce que je viens de demander. Si vous n'avez pas le détail là, je vous demanderai bien de nous les envoyer. Mais c'est un peu dommage de fermer.
Alors, je vais vous répondre. Il s'agit d'un agent qui était effectivement en fin de carrière, je crois qu'il a dû rester 18 mois, qui a eu une opportunité par siphonnage à la communauté de communes, qui manque de compétences et qui pille les communes aux alentours. Et donc, il y a un nouveau recrutement qui s'est effectué, effectivement.
Vous avez dit, si vous pouvez vous rapprocher un petit peu du
jeu. Oui, pardon, c'est bien. Donc, je disais, il s'agit d'un agent qui était en fin de carrière, donc qui avait bénéficié de promotion de grade. Et le recrutement, la personne qui va arriver dès lundi ailleurs pour la remplacer, est sur un grade inférieur. Donc ça, c'est pour un poste. Ensuite, pour les autres... Effectivement, il s'agit de faciliter les embauches, c'est-à-dire que ce sont des postes qui n'existent pas aujourd'hui au tableau Et donc, pour pouvoir embaucher sans avoir à attendre le prochain conseil municipal et la création d'un poste, ça nous permet au contraire d'embaucher plus facilement des adjoints administratifs en fonction des besoins de la collectivité et de ne pas avoir à attendre la création d'un poste lors d'un prochain conseil municipal. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Et pour compléter, vous parlez d'approfondissement des postes. Alors là, je vais vous surprendre. Je parle sous le contrôle de Madame Gallois. Nous étions en discussion cet après-midi pour le CCAS. Il y a un agent qui part. Et nous faisons au contraire le choix de renforcer les compétences techniques et nous nous orientons sur un recrutement d'agents plus qualifiés. Donc vous voyez, vous pouvez vous tromper dans l'interprétation que vous faites de notre politique.
Cela dit, vous ne remplacez pas la deuxième conseillère sociale qui est quand même cadre, donc du coup...
Justement, Madame Lagou, ne parlez pas de choses qui ne sont pas justes.
Vous allez avoir de nouveau un travailleur social, c'est ça ? Non, vous allez embaucher de nouveau un travailleur social ?
Oui, c'est tout à fait ça.
C'est bien. J'en suis satisfaite.
De départ.
Mais il manquera quand même un poste, du coup. Parce que
non, mais pourquoi remplacer systématiquement poste pour poste ?
D'accord. Bon, de toute façon, nous maintenant...
On travaille différemment. Voilà. Nous, on s'interroge sur les besoins, le fonctionnement des services. On ne reproduit pas simplement les choses parce qu'on a toujours fait comme ça. On s'interroge sur les missions prioritaires et on choisit les effectifs qui nous semblent les plus adaptés en fonction des compétences de chacun, en fonction des objectifs politiques qui sont fixés à chacun des services. Et c'est comme ça qu'on travaille. Voilà. Oui, Monsieur Durand.
Pourrait-on savoir le nombre d'agents qui sont partis depuis le début de la mandature, pour avoir un nombre d'idées?
On vous transmettra...
Partie remplacée, non remplacée, ou vous les connaissez?
Non remplacée.
Monsieur Billou l'avait écrit.
Oui,
Monsieur Billou,
qui a les calculs pour nous.
Environ 13%.
Quand vous nous présentez le tableau des effectifs,
exactement.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je soumets ces créations de postes au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous avons maintenant une information à vous communiquer. Il s'agit des mises à disposition. Monsieur Lancette, je vous redonne la parole.
Mise à disposition, donc suite à la parution de la loi de transformation de la fonction
publique. Suite à la parution de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et ce à compter du 1er janvier 2020, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires. Les mises à disposition ne sont donc plus soumises préalablement à l'avis de la CAP. Donc, conformément à l'article 1er du décret numéro 2008-580 du 18 juin 2008, l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale est informée préalablement des mises ou renouvellements de mise à disposition du personnel communal. À ce titre, pour l'année 2022, est mis à disposition auprès du CCAS de Nangy un adjoint administratif principal de première classe à temps complet et deux agents sociaux à temps complet. Le renouvellement de mise à disposition est à compter du 3 octobre 2022 pour les deux agents sociaux. Avez-vous des questions?
Donc, dernier point avant de passer aux questions orales, il s'agit du rapport d'activité annuel de la communauté de communes de la Brie-Nangicienne. Alors, normalement, ce rapport aurait dû être présenté par le président de la communauté de communes au conseil communautaire avant le 30 septembre 2021. Le rapport de l'année 2020 devait être réglementairement présenté avant le 30 septembre. Il a fallu le réclamer avec insistance et rappeler le président de la communauté de communes à ses obligations. Et donc ce rapport a finalement été présenté à l'Assemblée communautaire le 15 décembre 2021. Donc normalement, la commune, chacune des communes doit voter ce rapport, enfin la prise d'information, avant le 31 décembre de l'année. Évidemment, en l'ayant passé en conseil communautaire le 15, et il était un peu compliqué de vous le soumettre avant le 31. Donc vous avez donc pu prendre connaissance du rapport présenté. Alors il est normalement présenté avec le compte administratif, et ça aussi ça n'a pas été fait à la communauté de communes. Donc je vous remercie Laura, donc, qui est allée chercher le compte administratif qui avait été présenté au mois de juin précédent pour le joindre au rapport, puisque ça n'avait pas été fait au conseil communautaire. Ah, il n'a pas été envoyé avec, en fait. Ah non, ben, je suis la seule privilégiée. Donc, en fait, le compte administratif, vous le retrouverez dans les comptes rendus du conseil communautaire en date du 24 juin 2021. Voilà. Puisqu'il n'a pas été non plus présenté avec le rapport à la communauté de communes, malheureusement. Voilà. Donc, nous sommes un certain nombre, hein, ici... assiégés au conseil communautaire. Donc ce rapport permet l'information des conseillers municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires. Donc vous y trouvez une présentation du territoire, un peu d'histoire, un plan de situation, un rappel des compétences, entre les compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives. La composition du bureau communautaire, du conseil communautaire, l'organisation de la communauté de communes, un point sur les finances et les ressources humaines. Je ne vais évidemment pas vous le détailler là, hein, il y en a 45 pages. Et puis ensuite, donc, les présentations sont regroupées par compétences élues. C'est pour ça que le sport et la santé sont regroupés, par exemple, avec un bilan des activités, de ce qui est présenté. Un point sur le développement économique. Un autre sur l'aménagement de l'espace. Alors j'en profite pour porter à l'information de tous que la communauté de communes a mis en place un service de transport à la demande depuis le 1er février 2022. Donc je vous invite à le faire savoir autour de vous et à l'utiliser. Et nous avons demandé confirmation auprès des services de la communauté de communes. Le transport à la demande peut être sollicité pour des transports intra-Nangis. Sinon, évidemment, il serait réservé à tous les habitants extérieurs, finalement. Parce qu'en général, ce sont plutôt les habitants des villages qui ont besoin de venir à Nangis. Nous, les besoins à Nangis, ça peut être pour aller du domicile à la maison de santé, ou bien du domicile à un point de dépose d'une ligne de bus, par exemple. Et donc, les services de la communauté de communes nous ont bien confirmé que ces trajets faisait partie de ce qui était prévu dans le transport à la demande. Oui, Madame Lagos.
Oui, juste une petite précision. Le transport à la demande existait déjà. En fait, là, c'est un développement du transport à la demande.
Mais c'est un transport qui n'est pas du tout connu et qui est très, très peu utilisé.
Oui, en fait, il desservait principalement les jours de marché, la piscine de Grandpuy et la piscine de Langier. Et ça a été développé là, sur ce mandat.
Sur une année, là, pour répondre à votre 1000 voyageurs sur l'année. On fait 3 voyageurs par jour.
Oui, et je voulais savoir, ça intéressera tout le monde, je pense. Où est-ce que vous en êtes de votre appel au Premier ministre pour régler la situation de gouvernance? Est-ce que Jean Castex a pris le temps de vous appeler?
on a dîné ensemble avant-hier. C'est sympa. Non, pour le moment, c'est dans les tuyaux de, on va dire, de l'État. Il attend de voir comment les choses évoluent, si le président de la communauté de communes réfléchit un petit peu à sa position, parce que s'arc-bouter comme une moule accrochée à son rocher, c'est sympa. Mais aujourd'hui, on dit clair, il a perdu sa majorité, il continue de la perdre dans son sens qu'il va peut-être la récupérer. Il fâche plus les gens qu'autre chose, mais bon, aujourd'hui, la loi, comme l'a dit Madame le maire dans son intervention sur Radio Oxygène, il y a un trou dans la raquette, le législateur est en train d'y réfléchir. Vous aurez les informations au fil de l'eau.
Je pense que le problème, en fait, vient du premier jour. Vous avez peut-être choisi, vous, collectivement, un mauvais candidat pour représenter ce que vous espériez être votre majorité. Je me rappelle que monsieur, son nom m'échappe, monsieur Pierre avait fait une très mauvaise prestation, et donc vous n'étiez pas rentré dans le compte.
Je peux regretter de ne pas avoir voté pour lui, peut-être. Puisque le vote s'est joué à une voix près.
Oui, c'était la mienne d'ailleurs. Et je m'en félicite parce que je souhaitais qu'il y ait un équilibre des pouvoirs. Et bon, je trouve qu'il y a des pratiques là, un petit peu particulières. Moi, je me demande pourquoi, monsieur Lancel, vous n'avez pas eu peut-être le courage, je ne sais pas, de vous présenter, puisque visiblement, vous brûlez de devenir président de la communauté de communes et peut-être d'avoir un destin politique, que sais-je. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas présenté directement? Et moi, je pense que si vous aviez assumé ce choix, vous auriez peut-être été élu, parce qu'on a l'impression que. Peut-être qu'il y avait une passation de pouvoir qui était prévue au milieu du mandat, je ne sais pas. Pourquoi dans ce cas-là, vous ne représentez pas M. Clairin? Est-ce qu'en un an et demi, il ne fait plus l'affaire? Enfin voilà, c'est des questions que je
vous pose. Là, ce sont beaucoup de suppositions que vous faites. Moi, je pourrais répondre
très... Vous n'êtes pas devenu président de la communauté de communes?
Très simplement, nous avons été élus, c'est un débat qui peut être sympa, on pourra l'avoir un peu plus tard si vous voulez. Les compétences qui étaient les nôtres quand nous sommes arrivés, vous vous doutez bien, avec 48 voix d'avance... on emporte les victoires, on n'est pas forcément prêt à gagner, on gagne tant mieux, l'ancienne majorité perd de 349 voix, parce que là je vous associe, puisque vous avez eu un certain nombre de voix, on a fait le choix de soutenir quelqu'un qui nous semblait peut-être plus capé, plus compétent, avec un recul qui n'était pas le nôtre, nous en avons débattu, et ce débat nous a permis effectivement de pouvoir voir la situation que l'on a aujourd'hui, on la regrette. Si aujourd'hui les deux tiers des maires qui sont présents sur la communauté de communes sont contre le président actuel, c'est pas simplement parce que Nangy met une vendetta, c'est simplement parce que nous avons constaté le manque sur l'ensemble des périmètres de la communauté de communes dans son cadre de fonctionnement, que ce soit sur la partie développement économique. Vous allez me dire, mais c'est vous qui étiez en charge du dossier, oui, mais quand vous n'avez pas les moyens.
Le blocage,
il n'est pas personnel, il est contre un individu qui passe son temps, malheureusement, comme on l'a pu vivre dans certains endroits récemment, enfin du moins ici, il y a quelques années, à nous expliquer ce qu'on ne peut pas faire. Et nous, ce n'est pas notre façon de faire, nous avons démontré au nouveau groupe qui est constitué aujourd'hui qu'il y a des choses à faire, et en quelques semaines, quelques mois, les gens ont compris que l'intérêt, c'était peut-être de changer de tête pour que les choses avancent.
Oui, il y a aussi des raisons politiques, parce que le point commun entre les 24 et 25, c'est qu'ils ont à peu près tous soit leur carte aux Républicains, soit des affinités aux Républicains.
Non, au contraire, si vous auriez eu à cette réunion...
Moi, j'entends les arguments de ceux qui veulent que la communauté de communes soit apolitique, je pense qu'il le faut.
Et vous avez raison.
Donc voilà, il y a des gens qui peut-être, parce que vous dites que vous avez perdu, il a perdu sa majorité, il a conservé, je crois, 6 vice-présidents sur 8.
Sur 9. Oui, mais c'est pas le problème. Le président, il n'est pas président d'un bureau, il est président d'un conseil communautaire. Quand les membres de la communauté de communes comprendront que les gens du passé ne sont plus présents, il y a 70% du renouvellement, il est peut-être temps à ce moment-là de se rendre compte qu'il faut faire autre chose.
C'est les anciens contre les modernes, c'est ça?
Je ne sais pas, c'est la compétence face à l'inaction.
C'est pour ça qu'ils sont heureux d'entendre ça. Bah, peut-être que,
vous savez, c'est un constat, le constat, vous l'avez. Vous l'avez avec FM Logistique, 2018, aucun terrain de vendu. Aujourd'hui, on a quand même deux signatures qui sont en cours, avec un terrain qui va être peut-être vendu beaucoup plus cher, voire même d'autres installations, puisque ces installations, elles sont, entre guillemets, encore une fois, dans les tuyaux de la communauté de communes, information que moi, je n'ai plus.
Je pense qu'il y a aussi un élément important à prendre en compte. C'est que l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, bientôt, en 2020, on était quand même dans un contexte très particulier avec ces municipales pour lesquelles il y a eu 3 mois quasiment entre le premier et le second tour. Et au sein de la communauté de communes, toutes les villes ont eu leur maire élu en mars, sauf Nangis et Verneuil. Donc chacun s'était positionné, les stratégies des uns ou des autres, enfin je parle des 19 autres communes, parce qu'évidemment, pour nous, l'important, c'était Nangis, et la communauté de communes n'était qu'une conséquence. Voilà. Donc les choses auraient été certainement différentes si toutes les mairies avaient pu élire leur maire en même temps au mois de mars. Et je pense effectivement aussi qu'une communauté de communes, c'est très particulier à piloter. Quand vous êtes élu sur une mairie, on le sait tous ici autour de la table, vous avez une équipe qui est déjà constituée, vous avez un programme qui constitue la base de ce que vous allez faire, et puis quand vous êtes élu, bah, vous avez la majorité. Quelqu'un qui se présente en tant que président d'une communauté de communes, donc on avait eu le cas, vous avez dit que M. Clairin n'avait pas été très bon dans sa présentation, M. Guillaume avait été certainement meilleur, il avait déjà désigné des vice-présidents, mais je parle sous le contrôle d'une autre, y compris des gens à qui il n'avait jamais même adressé la parole. Ce qui est le cas de M. Lancet. C'est-à-dire qu'ici, dans cette salle, M. Guillot, à l'époque, a dit « Je nommerai premier vice-président, un tel, second, et développement économique, M. Lancet. » Il ne s'était jamais adressé la parole. Donc, c'est déjà une façon de fonctionner qui peut étonner. Quelqu'un qui se projette pour travailler avec un vice-président qu'il n'a même pas pris la peine d'appeler pour savoir, pour échanger, quels pouvaient être les objectifs, la stratégie, tout ce qu'on fait dans une équipe municipale habituelle.
Il n'a pas refusé.
Non, je n'ai pas refusé, effectivement. Nous sommes la ville-centre. Je suis désolé, nous sommes la ville-centre. La place Sauf Erreur, elle était dédiée à M. Billoux à l'époque. Bon, malheureusement ou heureusement, ça n'a pas été le cas. On ne va pas, nous, se désengager alors que nous sommes un des porteurs importants, on va dire le porteur important.
Mais c'est un détail, mais c'est simplement pour expliquer quand même l'étonnement qui a pu être le nôtre et l'état d'esprit qui régnait à l'époque. Ensuite, le président Yannick Guyot a été élu avec une voix de majorité. Donc,
en proportion, c'est comme 48 voix dans la population.
Je ne suis pas sûr.
Hein, 349, monsieur.
La grosse différence, monsieur Billoux, c'est qu'ici, au Conseil communautaire, nous sommes majoritaires, monsieur Billoux. Oui. Et nous avons été élus sur la base d'un programme. Monsieur Guyot n'a pas de programme. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas.
Le fonctionnement des intercommunalités.
Laissez-moi finir, mais justement.
Ça ne marche pas, il faut reproduire ce qui marche.
Non, mais justement, monsieur Billoux, nous avons été élus sur la base d'un programme et nous avons la majorité. Quand on est président de la communauté de communes, c'est un rôle très difficile. Il faut réussir à fédérer des gens qui se retrouvent autour de la table alors qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne sont pas issus des mêmes communes, qui n'ont peut-être pas les mêmes problématiques. Et il faut réussir à fédérer tous ces individus autour d'un projet. Le drame, et je le dis comme ça, de la communauté de communes, c'est que le projet de référence de son président, c'est le projet de territoire qui a été voté en 2019 par la précédente majorité. Donc on a des nouveaux élus à 70%. À qui on dit, et quasiment tel que, on ne va pas discuter du projet, taisez-vous, on l'a déjà voté il y a 2 ans.
Ouais. La démocratie.
Donc ça ne peut pas fonctionner. Si vous n'expliquez pas aux nouveaux élus qui sont là quel est l'intérêt, si vous ne cherchez pas à les convaincre que les projets que vous avez envie de développer sont les bons, et que vous leur dites, texto, vous n'avez qu'à chercher dans vos armoires à la mairie, vous devez avoir le projet de territoire. Il a fallu attendre plus d'un an
pour que dans cette salle, enfin, le projet de territoire soit présenté à l'ensemble des élus communautaires. Avec une DGS à l'époque, quand on avait abordé un sujet particulier d'un dossier sur Nangy, qui s'était même permis de dire « Allez-y, battez-vous ». Vous imaginez l'ambiance quand même. Donc, à partir du moment où vous avez, et c'est le décalage aussi avec le bureau, 70% des membres du conseil communautaire qui sont nouveaux, qui n'ont pas voté le précédent projet de territoire, et un bureau qui, au contraire, est là depuis quasiment la création de la communauté de communes, eux, ils continuent ce qu'ils ont toujours fait, et ils ne voient pas qu'autour d'eux, ce ne sont plus du tout les mêmes. Et ils ne se remettent absolument pas en question. Donc forcément, ça coince, parce qu'un projet de territoire, ça se vote, ça se discute, et ça se vote en début de mandat, et pas en fin de mandat. On ne vote pas un projet de territoire en 2019, alors qu'il y a des élections en 2020. Ou alors, si on fait comme ils ont fait, alors, dès le début du mandat, on est respectueux des nouveaux élus qui sont là, et on leur explique quel est le projet de territoire. Et on l'amende pour qu'il puisse correspondre à la majorité. Sinon, et c'est ce qui s'est passé, on perd sa majorité.
Quand on a une majorité fragile comme celle-là, on essaye effectivement de faire un consensus. Quand on est à un bureau, vous n'êtes pas au bureau, j'ai plus de vivre, vous avez FM Logistique, on vous dit non, c'est 38 euros, c'est comme ça, et que vous avez une majorité, et là même, à l'intérieur de son propre bureau, on vous dit, bah, il n'y a peut-être pas tort, peut-être essayer de négocier, et que le président dit, bah non, c'est comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand vous êtes effectivement, comme Madame le maire, on est 22, il y a une opposition, et forcément, on est quand même un peu plus serein sur ce qu'on présente. Mais quand on est juste à une seule voix, et qu'on est en train de perdre sa majorité, qu'on n'a pas eu le vote du budget, qu'on est rejeté, alors après on vous dira, c'est un vote à bulletin secret. Oui, parce qu'il y a une forme de crainte quand on a un président qui crée la crainte chez les individus, c'est pas forcément normal. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un mode, on n'est pas dans un mode de construction, on est dans un mode d'attente dans cette communauté de communes. Et ça, les gens ne le veulent plus.
Je rajouterais aussi qu'on a des élus, et en particulier...
Si je peux, des élus et en particulier
des femmes qui n'osent même plus prendre la parole en conseil communautaire. Aujourd'hui, on en est là. Et pour l'information de chacune et chacun d'entre vous, sachez que le dernier bureau communautaire... Il s'est tenu toute la journée de jeudi dernier en visioconférence, très respectueux pour ceux qui bossent. Et le prochain conseil communautaire, c'est la même chose, toute la journée. Pas une vision...
C'est la conséquence de votre action. Excusez-moi, je vous écoute depuis tout à l'heure en disant est-ce que c'est le lieu comme ça pour en discuter? C'est pas une question orale, déposée, etc. Donc je note qu'on peut ajouter des points à l'ordre du jour de cette façon-là. Je pense que cette question-là, oui, aurait pu faire l'objet d'un débat avant que vous engagiez une action qui est vouée à l'échec. Ben oui, excusez-moi, mais la révocation des élus, excusez-moi, c'est dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas dans la Constitution française. Donc il n'y aura pas d'action du Premier ministre. Vous avez dû quand même vous documenter avant de vous lancer dans ce genre de truc et de demander à des gens de la signer ou à d'autres. D'ailleurs, on voit des signatures apparaître qui à la place d'un certain nombre de maires qui visiblement ne sont pas très satisfaits. Donc
je ne vous laisse pas dire des mensonges, ah monsieur bon. Billou. Donc il n'y a pas de signature à la place de...
Monsieur Jean-Luc Lagatu, monsieur Sgar. Vraiment, c'est pas mal.
Pour l'information de tous, celui qui siège...
J'ai la République et j'ai les déclarations.
Il ne faut pas se contenter de ce que disent les journalistes, monsieur Billou. Il faut aller à la source. Bon. Il faut vérifier ses sources.
Oui.
Parce que sinon, on dit les mensonges.
Je connais bien Jean-Luc Lagatu.
Oui, moi je vais vous expliquer. D'accord. Et je vais l'expliquer à chacun.
Donc,
pour la commune, d'ailleurs il y a deux communes qui sont dans ce cas-là. Il y a la commune de Gatin et il y a la commune de Vanvillers. Ce n'est pas le maire qui siège au bureau communautaire. Parce que le bureau communautaire, pour ceux qui ne sont pas, Le bureau communautaire, c'est donc un représentant. Est-ce que je peux expliquer? C'est mon côté propre.
je vous ai écouté, là, je dis deux phrases, et vous montez.
Je veux juste expliquer.
Évidemment, le si vous étiez président de la communauté de communes, ça ne changerait pas grand-chose.
Mais monsieur Guillaume, pardon.
J'en ai pas l'envie, je vous en rassure tout de suite. Donc, je disais, le bureau communautaire, c'est un vice-président, tous les vice-présidents, et ou un représentant par commune. Pour la ville de Gatun comme pour la ville de Vanvillers, le maire n'a pas souhaité siéger au bureau communautaire et c'est donc un autre élu qui siège pour lui. Dans le courrier dont vous parlez, que nous avons envoyé à différents ministères et au service du Premier ministre, il est précisé le nom de chacun des maires, des communes, et pour la commune de Vanvillers, puisque c'est écrit « le maire ou son représentant au bureau communautaire », le représentant de la commune de Vanvillers au bureau communautaire, c'est bien M. Jean-Sébastien Sgarre, qui a donc écrit son nom, Jean-Sébastien Sgarre, et qui a signé de son nom.
Est-ce que vous avez donc, vu ce courrier, M. Billou ? Vous l'avez vu ? Vous ne l'avez pas compris ? C'est ça que je comprends. C'est que vous n'avez pas vu que c'était mentionné « maire ou représentant ». Et en dessous, c'est marqué « Jean-Sébastien Sgarre ».
Et c'est écrit « Jean-Luc ». Et c'est écrit « Jean-Luc ».
« Maire de la ville ».
C'est Jean-Luc Lamattu. Et c'est... Non, je trouve...
C'est un courrier des maires.
Mais non, mais ça prouve... Excusez-moi. Ça prouve quand même une certaine fébrilité. Et je pense que... Parce que je ne suis pas loin de partager des points de votre constat, Madame la maire. Mais je trouve que le chemin que vous avez suivi est une impasse. Et on va, au lieu d'essayer de trouver une solution pour travailler ensemble, on va continuer de monter des conseillers communautaires contre les autres. Il ne sera pas destitué, vous le savez très bien. Les raisons pour lesquelles un conseil des ministres pourrait destituer un élu, c'est après une condamnation au pénal, ce qui est loin d'être le cas. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être... réfléchir, repartir sur un autre chemin, dans l'intérêt des habitants de cette communauté de communes. Bien, je ne crois pas que
nous laissons convaincre M. Guillot qu'il fasse ce qu'il faut pour que les choses changent. Vous ne faites pas confiance à M. Guillot ?
Je voudrais juste quand même ajouter quelque chose. Vous nous faites la leçon en nous expliquant qu'il faudrait essayer de travailler avec la difficulté, monsieur Friou. C'est ce qu'on fait depuis que nous sommes élus. Parce que figurez-vous que le tout premier courrier officiel que nous a adressé la communauté de communes, ça devait être en août 2020, c'était pour nous sommer de modifier notre plan local d'urbanisme tel que l'aurait souhaité la communauté de communes. Donc, on leur a expliqué que sur ce point-là, nous nous inscrivions dans la continuité avec ce que vous aviez fait, puisqu'il s'agissait de transformer Nangis Active Ball en zone commerciale. Ce n'était pas le choix que vous aviez fait, et nous nous sommes inscrits dans la continuité. Et nous avons quand même rappelé à la communauté de communes que la compétence urbanisme, c'était bien une compétence ville. Donc, c'est vrai que dès le début, ça a été assez compliqué de se dire, mais ce président de communauté de communes qui se permet... De nous mettre en... Comment est-ce que c'est quoi son terme ? Vous vous rappelez, M. Ancel ? Enfin, bref, très autoritaire pour nous sommer de modifier notre PLU. Donc, malgré tout, parce que nous cherchons à travailler, nous nous sommes réunis plusieurs fois, on avait quelques sujets aussi autour du droit des sols, de l'ADS commun, bref. Donc, on a essayé de travailler. Et puis... quand vous discutez avec quelqu'un qui n'entend pas, qui ne veut absolument pas, c'est compliqué, en fait. Donc, je vous assure qu'on a tenté. Et on n'est pas les seuls à avoir tenté. Puisque aujourd'hui, ce sont quand même 13 communes qui ne veulent plus travailler avec M. Guillou. Donc, vous nous dites qu'il ne sera pas destitué. Effectivement, il y a une faille. Le législateur n'a pas prévu ça. Et c'est la première fois en France... C'est-à-dire qu'habituellement, c'est déjà arrivé que des présidents de conseils communautaires soient mis en minorité. Simplement, ils en ont tiré les conséquences. Et donc, ils ont remis leur mandat en jeu. Ils ont démissionné de leur fonction de président, ce qui ne les a pas empêchés de se représenter avec peut-être une nouvelle équipe, peut-être un nouveau programme, des nouveaux objectifs, un nouveau projet de territoire. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Il n'y a qu'ici. On a quelqu'un qui est comme une moule accrochée sur son rocher. Donc je pense que si quelqu'un doit tirer des leçons, c'est d'abord celui qui, vote après vote, est mis en minorité. Et aujourd'hui, il n'a plus le soutien que de 6 communes sur 20.
Ah, je serais curieux que vous me donniez des
6
exemples.
6 sur 20.
Vous me donnerez des exemples de communautés.
Quand vous m'aurez donné des salles des
places. Non, démissionner. Non, non.
Chargé, chargé.
Quand même.
Donc, le rapport. Il y a aussi un point sur le patrimoine. Pardon ? Non, je finis. Je ne tournais pas. La petite enfance. Je voulais quand même ajouter un point là, d'autant plus quand on est sur l'enfance. Normalement, le rapport d'activité aurait dû être accompagné également du rapport relatif à la mutualisation des services. C'est une obligation du Code général des collectivités territoriales. Je vais vous lire le texte. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, donc le PCI, la communauté de communes, peut établir un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement, de l'EPCI, et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. Voilà. En théorie, ce schéma doit être proposé après chaque renouvellement général des conseils municipaux et dans l'année qui suit. Voilà. Donc on peut quand même regretter que ce schéma de mutualisation n'ait pas été proposé, n'ait pas fait l'objet de discussion, ni en bureau communautaire, ni en commission, et encore moins évidemment en conseil communautaire. D'autant qu'on peut quand même noter quelques points étonnants dans le rapport d'activité. C'est quand même rare d'avoir des territoires où l'accueil des centres de loisirs, le mercredi et les vacances, c'est la communauté de communes, mais le matin et le soir, c'est la ville. Quand on cherche à rapprocher les Français de leurs élus et à être plus lisible dans les politiques menées par les uns et les autres, on peut se dire que c'est pas forcément très pratique, surtout quand on est dans les mêmes lieux et avec les mêmes agents en plus. Donc ça peut être une piste de travail.
De temps en temps, ça permettrait peut-être de lever ce genre d'obstacle.
Oui, c'est ce que j'avais
dit. Un petit peu comme la commission des affaires économiques, hein, monsieur le vice-président.
La commission enfance ne s'est réunie qu'une seule fois en décembre. Alors moi, je n'en fais pas partie. Mais du coup, on n'a pas pu du tout aborder ce type de sujet, puisqu'il n'a été...
Ce ne sont pas forcément des sujets de commission.
Si, tout à fait, parce qu'en fait, sur le mandat précédent...
Je vous parle du rapport de mutualisation.
Non, mais
sur la logique uniquement de ce qu'on fait dans le périmètre, mais sur une logique générale de mutualisation. Puisque les communautés de communes ont d'abord été créées pour ça, quand même.
Ah, mais vous parlez du service enfance et du périscolaire et extrascolaire.
Je parle de la mutualisation des services.
Voilà, il y a eu ce débat qui a été porté d'ailleurs par moi-même sur le mandat précédent, où nous avions mis en place un comité de pilotage sur ces questions de préscolaire, extrascolaire, et accueil pré-postscolaire, et il y avait eu une décision qui avait été prise. Les maires, en tout cas, n'étaient pas prêts du fait de la diversité du territoire à, pour le moment, mutualiser l'accueil pré-postscolaire. Mais après, rien n'empêche d'engager une réflexion, pourquoi pas sur ce mandat-là. Mais pour cela, en effet, il faut réunir les commissions et créer des groupes de pilotage et travailler sur le sujet. C'est une réalité. Pour le moment, il n'y a pas de commission.
Pour donc, ça, en fait, il faut qu'il y ait un pilotage à la
pas de commission, alors c'est le plus gros budget de la communauté de communes.
Et je vais vous donner un autre exemple. Ça, c'est une situation existante aussi. On a un RAM, un relais d'assistante maternelle, donc pour les enfants de moins de 3 ans qui dépendent de la communauté de communes. Mais à Nangis, on a aussi une crèche familiale, donc pour les enfants de moins de 3 ans, mais là, c'est municipal. Donc, parce qu'on a des définitions de compétences qui sont parfois particulières. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ensemble de l'accueil pour les moins de 3 ans qui a été délégué à la communauté de communes, mais uniquement ceux du RAM. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire telle ou telle mutualisation. En tout cas, on peut quand même s'interroger sur des sujets qui sont pas forcément très cohérents et surtout manquent de lisibilité, je pense. Pour nos concitoyens.
Oui, Madame le maire, vous parlez du relais assistant maternel, mais le relais assistant maternel, je rappelle, n'est pas une structure d'accueil, donc elle n'a pas du tout la même, les mêmes missions qu'une structure d'accueil. Une structure d'accueil comme la nôtre, qui est la crèche familiale, le RAM.
Mais ils utilisent des locaux qui sont quand même équipés pour accueillir des enfants de moins de 3 ans.
Oui, parce qu'ils cherchent des ateliers, mais ils n'accueillent pas des enfants sans des assistantes maternelles. Ce n'est pas du tout une structure d'accueil pour les enfants, ce sont des ateliers mis en place.
Nous pensons que, je rappelle,
c'est important de dire que ce n'est pas du tout la même compétence.
Oui, mais justement, mais les communautés de communes ont été créées pour mutualiser et avoir pour conséquence des économies. Et quand finalement chacun a sa structure à 300 mètres l'une de l'autre, on se dit qu'il y a peut-être des espaces qui pourraient être mutualisés. Peut-être pas l'ensemble de la structure, mais en tout cas, des espaces, il y a des choses à faire, à réfléchir.
Mais ce n'est pas une structure, c'est pas le même type de service. Enfin, on reviendra sur le sujet.
Moi, j'ai juste vous rapporté projet de commission de développement économique, 15 mars. Je tiens à votre disposition, et oui, le nombre de fois que j'ai demandé, mais votre ami M. Guillot ne répondant pas favorablement. Encore en janvier, je lui en ai demandé une, il m'a répondu, vous n'avez plus les délégations, donc je convoquerai. Fin janvier, ne voyant rien venir, je lui reposais la même question. Et là, maintenant, il m'a redonné la patate chaude en disant, vous n'avez qu'à la convoquer. Donc, un coup c'est oui, un coup c'est non.
Mais vous verrez. Apparemment, c'était aussi M. Guillot qui s'opposait à la convocation
Je vous l'ai dit. Vous pouvez demander à M. Martinet. Il a tous les
documents. La seule réunion à laquelle j'ai participé, c'est toujours M. Guillot.
Écoutez, moi, les demandes sont faites. Après, il y a un président qui donne un contre-ordre. Je ne peux pas aller contre le contre-ordre, vous savez.
Passe aux questions diverses. Madame Lacoute, je vous donne la parole.
Oui, je vais poser la première question, ensuite ce sera M. Guillaume qui posera les deux autres. Je vais poser la question sur l'extension du périmètre de l'autorisation préalable à la mise en location et la création du périmètre de déclaration préalable à la mise en location. Donc, Madame le maire, le 30 novembre 2020, vous avez indiqué par délibération 2020 novembre 124 que désormais, la déclaration de mise en location d'un bien dans les 15 jours devait donner lieu à la délivrance d'un récépissé des services de la ville de Nangy, signé par vos soins. Par ailleurs, le régime d'autorisation préalable de mise en location est plus contraignant car il conditionne la conclusion d'un contrat de location de votre autorisation préalable, devait aussi être mis en œuvre. Ces deux régimes devaient permettre à notre commune de réaliser des contrôles pour vérifier la bonne qualité des logements mis en location et lutter contre l'habitat indigne. Le périmètre avait donc été agrandi par vos soins dès les premiers mois de votre élection. Pouvez-vous donc nous faire un point précis du nombre de dossiers reçus par secteur dans les services de la ville, traités par vos agents, et plus précisément le nombre de relocations qui n'a pas pu être effectué faute de délivrance du fameux récépissé. Merci de nous indiquer quels sont les agents désormais chargés de cette mission. Merci.
Alors, pour les autorisations préalables de mise en location, donc il y a eu trois demandes, trois autorisations. Pour ce qui est des permis de louer, ensuite je vais vous donner le détail. 11 rue du Général Leclerc, 4 place du Pompéro, 1 rue El Bardin, 1 rue du Dauphin, 1 rue Pasteur, 7 rue du Ménage, 2 rue Aristide Briand et 7 rue Noas. Ce qui fait donc un total de 34 demandes. Sur ces 34 demandes, 7 ont fait l'objet de refus. Sur les 7, 3 ont fait l'objet de nouvelles demandes, parce que les travaux avaient été faits, qui ont été accordées. Un des propriétaires a informé nos services qu'il engageait des travaux, donc les travaux sont en cours. Voilà.
Qui s'occupe du coup de cette mission?
Le service urbanisme qui fait les visites avec la police municipale.
Merci.
Allez-y, monsieur Pilou.
Oui, non,
question suivante, je vous en prie.
Je sais ce que vous avez à faire.
Non, je vous écoute. J'ai votre question sous les yeux. Moi, j'ai cette chance.
Madame la maire, dans son dernier numéro, le journal municipal fait état de la visite du préfet à Nangy le 29 novembre dernier, afin, je cite, d'échanger sur les différents dossiers, la mare au curé avec sa réhabilitation et le soutien nécessaire de l'État pour son réaménagement, la dynamisation, la redynamisation du commerce, le programme Petite Ville de demain. C'était sur ces trois points-là que la visite portait. Nous vous avions déjà interrogé pour savoir où en était le dossier de demande de classement par l'État de la mare au curé en quartier prioritaire de la politique de la ville, sans obtenir à l'époque de réponse concrète. Or, je vous rappelle que si cette demande a fait l'objet d'un courrier de soutien de Madame la sous-préfète début 2020, il était nécessaire de conduire des études complémentaires à celles que nous avions déjà engagées, mais conjointement avec les services de l'État cette fois, pour que la candidature puisse faire l'objet d'un examen fructueux par les ministères concernés et être intégrée à la répartition des quartiers prioritaires en France pour la période 2023-2029. C'est donc d'actualité cette année. Pouvez-vous nous dire cette fois précisément, avec des actions et des dates, ce que vous avez engagé pour obtenir le succès de ce dossier très important pour les Nangiciens depuis votre élection?
Alors, je ne vais pas reprendre toutes les dates, parce qu'il y a de nombreux contacts entre nos services et en particulier la PEDEC. Donc, pour tout le monde, la PEDEC, c'est le préfet délégué à l'égalité des chances de Seine-et-Marne. Pour votre information, les nouveaux critères de classement du quartier vont être diffusés en 2022. Pour l'instant, nous ne les connaissons pas. Donc, tant que nous n'avons pas ces critères, nous n'allons pas conduire des études qui pourraient ne pas correspondre aux nouveaux critères fixés par l'État. Donc, les critères vont être diffusés en 2022. Donc évidemment, nous travaillons de manière très étroite en collaboration avec les services de l'État. C'est l'année 2023 où les dossiers vont être instruits et de toute façon, le classement n'interviendra pas avant 2024. Mais pas sur Nangy. Il y a les classements, l'ensemble des classements pour l'ensemble du territoire. Il y a une volonté de l'État de modifier les critères, peut-être de sortir certains quartiers ou de se concentrer sur des quartiers de villes de moindre importance. Mais pour l'instant, on ne parle que de discussions que nos services ou nous-mêmes avons eues avec les services de l'État. Mais les critères officiels n'ont pas été publiés et le classement réglementairement ne pourra de toute manière pas intervenir avant 2024, non pas de notre fait, mais parce que c'est la politique du gouvernement actuel. Question suivante.
On vous posera la question en 2023. Madame la maire, il y a encore quelques jours, et même juste hier, un accident routier s'est produit à l'intersection de la RD12 et la RD201, que l'on appelle familièrement à Nangy, route de Fontainebleau, route de Nitro. Ces accidents nous rappellent que ce carrefour est le plus accidentogène de tous en périphérie de Nangy. Régulièrement, d'ailleurs, les conseils municipaux de Nangy, la plupart du temps à l'unanimité, ont fait la demande au conseil général, puis au conseil départemental de Seine-et-Marne, de la sécurisation de cette intersection par la réalisation d'un rond-point. Pour sa part, le conseil municipal que j'ai eu le plaisir de présider avait obtenu des aménageurs de la Grande Plaine la réalisation d'un rond-point sur la route départementale 201, à hauteur de la mare blanche pour sécuriser l'accès notamment de la gare routière du lycée. Il aurait également permis de casser la vitesse sur cette départementale, vous l'avez enterré comme bien d'autres. Début 2020, j'avais reçu un courrier des services départementaux m'assurant que le rond-point RD12 RD201 serait réalisé très prochainement. 2 ans plus tard, toujours rien. Madame la maire, pouvez-vous nous indiquer si vous savez quand le conseil départemental va enfin réaliser ce rond-point?
En septembre 2023, monsieur Biou. Vous pouvez le noter à vos agendas.
Absolument.
Voilà. Oui. Non, les travaux seront réalisés en septembre 2023. Donc j'étais encore en réunion la semaine dernière avec le directeur des routes et le nouveau directeur de l'ART de Provins. Et donc, je peux vous l'annoncer. Le rond-point, les études ont été faites. Je crois qu'au niveau hydraulique, c'est assez compliqué. Mais voilà, les plans sont faits. Il y a un petit reste d'études. En espérant que l'étude hydraulique ne révélera pas de problème majeur, mais les travaux devraient être faits en septembre 2023. C'est ce qui nous a été confirmé par le département. Ensuite, pour le rond-point de la Mare Blanche, qui était pris en charge par les aménageurs tels que vous nous l'avez expliqué, nous avons également travaillé dessus avec les services du département. Et donc, les études vont démarrer. Et le département prendra en charge ce rond-point avec des travaux qui seraient effectués en 2024 ou 2025.
Vous précisez un tout petit peu par rapport à ce rond-point la problématique de la mare blanche pour laquelle il y a quelques réflexions apportées aussi, puisqu'aujourd'hui on a un système hydraulique qui n'est pas très conforme sur cet endroit. Donc, non, vous n'ignorez pas qu'il y a la mare blanche a quelques soucis. Si.
Oui, mais je ne vois pas.
Parce
que le rond-point a fait l'objet d'études qui avaient été soumises
à
la direction des routes. Donc, à l'époque, ça ne posait pas de problème. Mais bon,
maintenant, ils sont directement. Ouais.
La pente a changé.
Voilà. Eh bien, la séance est levée. Merci, bonne soirée à tous. Merci. Merci.